Émission Nageurs sur les ondes de Boulevard 102.1. Un jour, peut-être que je pourrais raconter en ondes ce que je racontais hors d'onde, mais ça se raconte pas pour le moment. C'est vécu d'hier soir qu'on va garder.
Mais peut-être que les gens
en ont. Entre nous.
88-971-101, tu sais, des fois, tu vis des affaires dans des contextes où c'est supposé être assez pacifique, puis assez d'entraide d'humain, puis dans un contexte où tout le monde doit avoir un genre de tenue, là. Mais tu le vois souvent sur des spotettes dans des gens qui pètent des coches, des gens qui suivent pas nécessairement la façon dont on devrait traiter notre prochain. Puis on a tous une petite idée aussi de la soupape du monde qui, des fois, explose. Je pense pas que toi, Anto, moi ou Gérard qui nous écoute a jamais vécu une expérience où quelqu'un pète une coche puis tu dis, voyons, que c'est ça, c'est quoi ce caractère?
Ah non, en effet, il y a de l'impulsivité dans notre monde.
Ouh!
Si vous voulez être moins impulsif puis vous voulez vous détendre et entendre une bonne conversation, le podcast hors série, Jeff Fortin, Éric Légaré hier sur la prévention du suicide, c'est disponible sur toutes nos plateformes, dont notre page YouTube sur laquelle je vous invite à vous abonner. 418-971-101, évidemment, pour interagir avec nous. BLVD.fm, c'est les meilleurs moments. Et également, ça inclut notre web radio, Boulevard 102.1, l'application sur App Store, Google Play Store, pour nous écouter partout où vous allez. Puis c'est très pratique sur l'heure du midi, honnêtement, parce que des fois, on est à pleine place. Hey, on est au gym, gagnons ça. Je vais écouter la gang dont on en jase pendant que je m'entraîne avec mon téléphone.
Il y en a qui vont courir, qui nous le disent sur leur heure de lunch, leur façon d'aller s'entraîner en même temps, parce qu'après ça, la routine avec les affaires commence le soir, puis qui nous mettent dans leurs oreilles.
Ah oui, oui, j'ai écouté longtemps sur cette antenne-ci à Boulevard, quand Denis Gravel faisait une émission musicale sur l'heure du dîner. C'est ça que j'avais dans les oreilles en allant courir. Fait que, donc, j'ai écouté longtemps, Denis, dans le temps que j'étais auditeur. Et également, twitch.tv/BLVD/FM pour venir nous rejoindre sur Twitch. Venez nous voir, les amis. Ça nous fait toujours plaisir de savoir que vous êtes présents et que vous êtes là. Donc, n'hésitez pas à utiliser tous les moyens pour écouter l'émission On en jase, votre émission du midi. Pascal Sévent, Antonin Iacarini, comment allez-vous?
Très bien.
Super bien.
Ouais, cool. Je suis content. Très
beau, il fait soleil.
C'est vrai.
Belle journée d'hiver.
C'est, même s'il fait froid, là, juste sortir un peu justement sur l'heure du lunch.
Ah,
après,
oui.
après l'émission, bien sûr, restez avec nous.
Mm-hmm.
Mais juste prendre 5 minutes de lumière du soleil. Là,
vraiment.
Ça fait toute la différence.
T'as tellement raison. Je m'entraîne ce soir au gym. Hier, on a fait un entraînement comme pour les athlètes olympiques de cardio. Tu sais, quand tu finis l'entraînement puis que tu a le goût du sang dans ta bouche tellement que t'as
je connais pas ça,
poussé
t'as pas
cardio.
T'as pas l'air excité non plus par sa description de...
Ah, j'ai adoré.
Toi, t'aimes ça.
Ah ouais, je suis arrivé chez nous, là, le corps était... Ah,
les endorphines,
j'étais bien.
Hein?
Ah okay, ouais. Ah, j'étais bien, j'ai adoré. Ce soir, c'est muscu, mais justement, je vais aller prendre une petite marche. Vu que je vais au gym ce soir, je
vais
pas courir avec le soleil.
Moi, je me suis fait du bien autrement. J'ai changé ma routine ce matin. J'ai pris une belle marche, puis j'allais me chercher un café dans un endroit. Je sais, puis arrive Mexou, il me dirait de pas faire ça. Mais
ouais.
Je prends la plupart de mes cafés à matin, à la maison.
Mais ça fait du bien une fois de temps en temps.
Puis je me suis assise face à la fenêtre en plein soleil. Puis j'ai juste bu mon café tranquille. Rien dans les oreilles, rien à lire, pas sur mon sel.
Mais ça change l'état mental complètement.
Totalement.
Il y a un hiver, à un moment donné, où est-ce que j'avais un bureau. Ma fenêtre était direction sud. C'est une de mes premières jobs en politique. J'avais un gigantesque bureau, vraiment bizarre. C'était comme l'espace était fait comme ça, vu sur l'Assemblée nationale. Et j'avais le soleil toute la journée. Fait que c'est l'hiver où j'ai eu le moins de déprime saisonnière. T'sais, j'étais vraiment en forme. C'est la différence que la lumière peut faire.
Ça, c'est prouvé par les scientifiques.
Oh, oui.
Et ceux qui ont envie de rire de la luminothérapie, moi, j'en ai jamais fait, mais t'sais, ça me faisait un peu rire. J'avais une secrétaire dans mon ancien emploi qui, à chaque fois, on arrivait dans le temps de novembre.
J'en ai une, moins de
lampe. Bon, elle mettait sa lampe, puis elle faisait sa séance de luminothérapie. Puis je la trouvais tellement mignonne. Je trouvais ça... Puis crime, je me suis mis à lire là-dessus. Elle n'est pas juste mignonne, elle est super brillante.
C'est pas ésotérique. Par contre, pour ce qui est de la lumière du soleil, dans les fenêtres, mettez-vous de la petite crème solaire. Hein. C'est pas parce que c'est l'hiver qu'il n'y a pas de rayon UV, ça fait rider et ça donne le cancer. Voilà.
Christian qui a écrit « Ta retraite est dans ta tasse ». Starbucks, dirait Alex Leblond. D'ailleurs, Alex Leblond va être avec
Je ne suis pas allé dans un Starbucks, je suis allé dans un petit café.
Non, mais je trouvais ça drôle, le clin d'œil. Alex Leblond va être dans le retour ce soir, le planificateur financier. Mais vois-tu, tu viens de dire quelque chose, puis je fais juste un petit aparté avant qu'on passe aux manchettes. Le petit café du coin. Hey, moi, j'aime tout ça, les encourager, ces petits commerçants-là.
Moi, je rêve, puis c'est sûr que je le ferai pas, là, mais ceux qui travaillent dans un café, à part l'heure à laquelle ils se lèvent, parce que si tu sers le café à quelqu'un, il faut que tu te lèves avant le dit quelqu'un. Ça doit tellement être le fun.
Hé, hey, mais... Hein.
T'es dans la routine matinale de bain des gens, tu leur donnes leur premier plaisir, pour beaucoup.
Ouais.
Oui.
Entre les mains, bien chaud, en plein hiver, leur premier sourire. Écoute, ça doit être une job le fun.
Tu sais, des fois, là, quand ça va mal à ta job, ouais, t'es stressé, c'est...
T'en as beaucoup.
Il me semble que tu lâcherais tout. Moi, tu sais, je rêve dans ma tête, dans ces moments-là, à m'ouvrir un café-librairie. Voilà. C'est un café-librairie.
Hey, bon. C'est bien hot, ça.
Puis je dis pas, tu sais, il y a sûrement des entrepreneurs ou des restaurateurs qui nous, ouais, écoutent et qui disent « Hey, ma grande, c'est vraiment pas aussi facile que tu penses. » J'en suis sûre, mais dans ma tête, à moi...
C'est ton c'est bonheur.
Mon... Exactement.
C'est ton refuge.
Ouais. C'est mon rêve refuge, là. Puis je m'imagine, là, avoir mon petit café, puis là, il y aurait des petites bibliothèques, là, puis là, les gens pourraient, vois-tu, acheter
moi,
des livres.
Moi, c'est un café yoga.
Ah, tu vois? Mais le café, ouais, est encore là. C'est
café,
bon,
là, c'est yoga. Non, mais c'est drôle parce
yoga,
que...
Yoga, tu serais prof de yoga?
Non, 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 il y aurait des profs, okay, de yoga qui feraient du yoga. Puis
pourquoi
là, le café.
Pas, Pascal?
Non, ah, non, je manque un peu de. Je manque vraiment de souplesse. Ah, non, non, vraiment. Quand j'ai fait le yoga à quatre bachans l'autre jour, au profit de la bouchée généreuse, ouf.
Mais tu pourrais être prof de yoga spécialisé en gars pas flexibles.
Ouais, c'est vrai.
Il y a quand même il y a un marché pour ça dans mon chum. Mmh.
Qui, ah, et voilà.
Il fait des bruits à chaque fois qu'il se lève du lit parce qu'il n'y a pas un genre. Mais mon chum, c'est un cycliste, là. Il a les jambes à peu près gros comme des troncs d'arbre chaque. Mais il y aurait un public qui irait à tes cours de yoga pour gars pas flexibles.
Il se sentirait inclus.
Je suis content,
oui,
je vais partir ça.
Pas ça.
Je vais partir ça. Non, c'est parce que dimanche matin, on se lève de bonne heure maintenant le dimanche parce que Gabou fait du Ultimate Frisbee, c'est nouveau dans sa vie, mais à 8h15 le dimanche matin. Puis là, samedi soir, on avait reçu un couple d'amis à souper à fondu. Fait que vous comprendrez qu'on s'est couché un petit peu croche. Mais quand on s'est levé, on n'avait pas eu le temps d'en venir complètement droite. Et là, je me suis mis à faire du café, je me suis mis à faire à déjeuner à tout le monde. Et là, je disais ça à la joke, je vais m'ouvrir un café, checker ça comme assez, okay, cool.
Je suis...
J'avais l'impression de rendre tout le monde heureux.
C'est très romantique, j'aime tout ce qui se passe en ce moment. Je suis certaine qu'on n'est pas les seuls à dire on aime notre job, mais une fois de temps en temps... on ouvrirait quelque chose ou on ferait une autre affaire, punch in, punch out, 88-971-1021. Si vous voulez nous écrire, c'est quoi votre refuge psychologique en termes de travail, vous autres? Là,
J'avais un collègue, moi, il disait, oui, moi, je vais aller vendre des cellulaires au centre d'achat. Tu sais, quand tout devenait vraiment compliqué, ouais, là, puis qu'on est en gestion de crise, moi, je vais aller vendre des selles.
OK, pour punch in, punch out. Ouais. Je trouve ça plus romantique, le café, encore.
Il y a aussi, oui, les gens qui veulent ouvrir des bed and breakfast. Je sais pas si ça va être dans les, dans les réponses.
C'est vrai. Ah oui, allez-y. 418-971-1021. Nous autres, on rêve de s'ouvrir un café. Vous autres, vous rêvez à quoi? Et ça peut être aussi simple que d'être un guide touristique. Là. Ça peut être plein,
oui,
de choses. Ben plein,
oui,
plein, plein, plein de choses. On revient avec les réponses après les manchettes de Pascal CV. Qu'est-ce qu'on doit savoir dans l'actualité?
On sort un peu des dossiers qu'on a suivis dans les dernières semaines parce que je veux parler de la FIPEC. Demande un moratoire sur l'interdiction des signes religieux en garderie. On est comme revenu avec tout, mm-hmm, ça. Là. Les consultations sur le projet de loi 9, sur le renforcement de la laïcité de l'État, vous le savez, ça fait jaser. Et ça a été lancé à nouveau ce matin à l'Assemblée nationale. Alors, d'ici vendredi, on devrait avoir quelques groupes qui vont avoir déposé leur mémoire. Ça veut dire ce qu'ils ont rapporté, ce qu'ils ont à dire aussi, qui vont faire valoir leurs arguments aussi aux élus. On est aux prises, vous savez, avec une pénurie de main-d'œuvre dans plein de milieux, mais le service de garde, les milieux de garde, c'est là où ça bouge le plus. Hein. La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec sont très vocaux depuis le début là-dedans. On demande un moratoire sur l'interdiction du port des signes religieux pour les éducatrices. Autant les parents que ces gens-là demandent à ce que ça soit statué. Donc, projet de loi qui est adopté tel quel, ça va avoir pour effet d'interdire les prises de les arrêts de prière de rue au Québec, le port de signes religieux aussi dans les centres de la petite enfance et les garderies subventionnées. Ça vient de sortir, donc bien qu'il y ait une clause de droit acquis qui soit incluse pour les éducatrices qui sont déjà embauchées, on demande un moratoire d'une durée indéterminée pour les dispositions qui s'appliquent au milieu de garde. Il y a une présidente dans tout ça, c'est Anne-Marie Bellerose. Elle a le peur que les nouvelles restrictions viennent empirer la pénurie de main-d'œuvre puis entraînent des bris de service. On est tellement, Jeff, dans religion, immigration,
oui,
comment est-ce qu'on met nos limites, comment est-ce qu'on inclut ces gens-là qui arrivent, qu'est-ce qui dérange, qu'est-ce qui dérange pas. C'est une grosse trame de fond actuellement dans nos nouvelles. Je dois parler de quelque chose qui s'est passé à Laval. Félicide à Laval, le père a avoué au début de son procès avoir noyé ses enfants de 11 et 13 ans.
Ouf.
C'est un énorme drame. Et dès le début du procès, le père de famille, qui est accusé de meurtre prémédité de deux de ses enfants, a avoué son crime, donc de les avoir noyés en 2022. Il s'appelle Kamaljid Aurora et c'est lui qui a causé leur décès. Donc, dans Train de jeu, on est allé là-dedans. On est allé dans la véracité des accusations. Le procès devant jury de l'accusé de 49 ans s'est ouvert ce matin. Ça se passe au palais de justice de Laval, mais ça fait beaucoup de bruit. C'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. Et on fait face à des accusations de meurtre au premier degré d'enfants de 11 et 13 ans. On lui reproche aussi d'avoir tenté de tuer sa fille aînée, d'avoir étranglé sa conjointe à leur domicile en 2022. C'était en octobre, le 17 octobre pour être précise. C'est tout un drame. Et c'est de ça que vous allez entendre parler aujourd'hui, assurément, dans vos divers bulletins de nouvelles. Il faut aussi revenir sur le meurtre d'un bambin à la garderie. C'est un homicide involontaire. C'est ce que la défense plaide. C'est le procès de Tommy Caranza Ladry qui entre dans la dernière ligne, en fait, du dit procès. C'est un éducateur qui est accusé d'avoir sauvagement tué un bambin de 18 mois dans une garderie. C'est dans Lanaudière. Il devrait être déclaré coupable d'homicide involontaire. Il était incapable de voir les conséquences de sa violence. C'est ce que plaide la défense. Ça fait aussi beaucoup réagir, c'est sûr. Glencore a suspendu ses investissements de 300 millions de dollars dans la fonderie Orne. Et c'est Radio-Canada qui nous dit que, bon, c'est faute d'avoir obtenu une entente avec le gouvernement du Québec que la compagnie Glencore a annoncé cette suspension-là. C'est quand même de bons investissements et c'était pour la fonderie Orne de Rouyn-Noranda. On voulait réduire les émissions de polluants. Les dirigeants de l'entreprise sont sur place là, pour annoncer la nouvelle aux employés aujourd'hui. Puis au mois de mars 2027, la fonderie ne pourra pas respecter en termes de son permis, alors tout ce qui lui était imposé, même si l'usine sera menacée de fermeture. Je m'excuse, j'ai un petit rhume. Alors, ça sera ça pour aujourd'hui.
C'est parfait, Pascal CV. Parmi les réponses qu'on a reçu, bon, Gaétan trouvait très drôle le yoga pour les gens pas souples. Alors, merci Gaétan de ta réponse. Mais plein de bonnes réponses. On a une animalerie. C'est vrai que travailler avec des animaux, ça doit être le fun. Enseigner le ski.
Oui.
Donc, livreur pour une pharmacie.
Ah,
là, ton
pas?
Char, c'est cool. Tu t'amuses. Tu vas voir le monde. Tu leur livres leurs médicaments. Ils sont contents de te voir. Donc, j'aime beaucoup. Prof d'éducation physique pour les jeunes.
Ouf.
Shop de blue jeans sur la plage. Et animateur radio, parce que vous écoutez parler, faire de la radio, ça a l'air le fun.
Ah, bravo.
Ah, que c'est le fun. Merci à tous pour vos réponses. Au 418-971-1021.
Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iaccarini vous les sert clair, net et précis dans le caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre.
Caucus avec Antonin Iaccarini, c'est du lundi au jeudi. On commence toujours avec une petite intro des manchettes, le show, et par la suite, c'est Antonin Iaccarini qui arrive immédiatement. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Anto, c'est grande rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale pour la session, on l'appelle quoi, hiver-printemps, j'imagine, vu qu'elle commence à l'hiver?
On n'a jamais de nom. On dit la session d'automne, puis après ça, c'est la session interminable.
Oui, parce que ça commence en fin.
Elle est interminable. Pour le staffer, les gens là, qui travaillent dans les cabinets, c'est interminable.
Ben aujourd'hui, on est 3 février, puis elle va terminer le 15 juin.
Exact.
Fait que c'est vrai qu'elle est interminable.
Il y a quelques semaines de relâche toutefois, mais...
Mais c'est quand même, tu travailles dans les comtés, puis tu sais, ça n'arrête jamais la machine politique, même si on n'est pas à l'Assemblée nationale.
Puis là, cette session, moi, je vais la qualifier de très étrange. C'est une très étrange session parlementaire qui commence parce que, ben, premièrement, le Parti libéral revient avec, encore une fois, pas de chef.
Ouais.
Va en avoir un bientôt. Mais même quand le Parti libéral va choisir son nouveau chef, qui devrait, en toute vraisemblance, être Charles Milliard...
Ça sera pas Mario?
Ça devrait pas.
OK.
Eh bien, il ne sera pas élu, M. Milliard. Donc, on va encore avoir un Parti libéral qui a un chef extra-parlementaire, comme Pablo Rodriguez était. Donc, on va avoir un chef parlementaire qui va être nommé. J'espère que la personne va prendre une meilleure décision que Pablo Rodriguez avait pris.
Ben, l'avantage, c'est que, compte tenu qu'il n'y aura pas de course à la chefferie, il ne risque pas d'avoir de brownies dans cette course-là.
On part déjà avec un avantage. Pas les libéraux.
Mais c'est fou, même dans ces commentaires-là, maintenant, on est encore dans « on ne sait jamais ». C'est terrible pour un parti, non?
Puis de toute façon, même si on parle seulement des brownies du passé, que ça ne fait pas si longtemps que ça, même pas un an, cette histoire-là, bien, les enquêtes sont toujours en cours. Donc là, on fait le bilan. Le Parti libéral n'a pas de chef. C'est encore Marc Tanguay qui va avoir été quasiment chef pendant toute la législature.
Oh, oui, exactement. Puis là, des enquêtes qui vont nous tomber dessus, on va être encore obligés de se défendre. Oui, mais là, vous savez, là, c'était ça s'est passé dans l'équipe à Pablo, parce que là, l'équipe à Pablo, on va tout envoyer là.
Et ajoute à ça, Marois Risky, situation complètement malaisant.
Qui est de retour aujourd'hui.
De retour aujourd'hui.
Pas dans le caucus libéral.
On apprend des affaires via la poursuite.
Oui.
Parce qu'il y a une poursuite, elles se poursuivent l'une l'autre. Là,
ben oui. Hey, Pablo, toi, Pablo dans le bureau d'une députée. Toi, ah ouais, il y a le cash circulé, oh, les cartes de membres. Let's go, dans un bureau de l'Assemblée nationale.
Et là, Marois Risky doit éventuellement avoir des discussions avec le nouveau chef pour savoir si elle réintégrera. Et là, je fais le lien avec un autre élément qui est sorti dans l'actualité cette semaine, grande entrevue, portrait sur Pablo Rodriguez, qui s'était entendu ça, entre l'actualité et M. Rodriguez avant toute la crise. Et là, finalement, ce portrait-là n'est plus le portrait du chef du Parti libéral, mais bien du chef déchu du Parti libéral. Et on apprend dans le portrait de Pablo Rodriguez qu'il considère qu'il a été victime d'un coup d'État.
Ouais, un coup d'État.
Rien de moins. Bon, mais putsch, là, putsch, je suis d'accord, coup d'État, on se calme.
Ouais, là, coup d'État. Écoute, les Brownings, c'est la même députée dans laquelle il s'est retrouvé dans son bureau à l'Assemblée nationale avec de l'argent sur la table.
Sonna Lacoyanne.
Exactement, pour des cartes de membres. Pablo Rodriguez s'est retrouvé chez un autre organisateur libéral où il y avait des prête-noms.
Emmanuel Cabral,
c'est ça.
Pardon.
Mais lui, il ne savait pas.
Il ne sait rien.
Fait que là, tu sais, le coup d'État, puis d'après moi, tu vas être d'accord avec moi, cet extrait-là, cette citation-là de Pablo Rodriguez lorsqu'il a annoncé sa démission, avec qu'est-ce qu'on commence à savoir de plus en plus, va très mal vieillir. On l'écoute à l'instant.
Toujours agi avec authenticité, intégrité,
intégrité.
Oups. Et éthique.
Éthique?
Toujours. En dépit de ça, je suis devenu, malgré moi, une distraction. Et le Parti libéral mérite qu'on parle de ses projets, de son plan d'avenir. Le Parti libéral du Québec mérite qu'on parle de lui, pas de moi.
Ça, je suis d'accord.
Alors, c'est pourquoi j'annonce aujourd'hui ma démission à titre de chef du Parti libéral du Québec.
Antonine, tu connais la politique plus que moi parce que tu as travaillé à l'Assemblée nationale. Si tu as été dans un bureau où de l'argent circulait sur le bureau avec des cartes de membres à l'Assemblée nationale, tu peux pas te présenter. Puis là, c'est pareil à la Chambre des communes là, parce qu'il venait d'Ottawa. Là. Tu peux pas te présenter dans une conférence de presse puis dire « J'ai toujours agi avec intégrité et éthique. »
Bon, d'abord, tu dis que je connais plus la politique que toi, que j'ai travaillé en politique. C'est vrai que j'ai travaillé en politique, mais j'ai jamais été au Parti libéral. Et malheureusement, je suis obligée de dire que la culture au Parti libéral est très différente de celle au PQ.
Ah, okay? Oh, ça, je suis...
J'ai plein crois d'amis 100%. Libéraux, dont certains qui ont travaillé à l'époque Charest, et m'ont raconté toutes sortes d'affaires. Donc, je referme le chapitre. Moi, je ne peux pas te dire comment tu agis quand il y a de l'argent cash qui circule dans des campagnes. Je n'ai jamais vu une chose pareille de première main. Maintenant, évidemment, il y a beaucoup de fantômes là, entourant cette histoire-là. Puis, on le disait tantôt, il y a des enquêtes qui sont en cours. On va avoir les conclusions des différentes enquêtes à différents moments. C'est un peu incontrôlable pour le Parti libéral en année électorale. C'est terrible. Je vais te donner mon interprétation de ce qui s'est passé avec les pièces de puzzle qu'on a grappillées une après l'autre grâce au travail des journalistes notamment. Je pense que Marois Risky a été nommé par Pablo Rodriguez parce qu'il lui faisait confiance. Trop confiance. Puis ça, c'est un des éléments qui ressort aussi du portrait de l'actualité. C'est que M. Rodriguez fait aveuglément confiance quand il fait confiance. C'est gentil, là, mais ça ne devrait pas être ça en politique. Si tu es chef, tu es imputable. Et si tu es imputable, tu dois vérifier, surveiller et être vraiment en charge des choses. Il faisait très confiance à sa directrice de cabinet, Geneviève Hinz, qui l'a nommé comme étant son point de contact à l'Assemblée nationale, parce que lui n'était pas chef parlementaire, il n'est pas élu. Donc, c'était sa personne de confiance. Et là, la bisbille pogne entre Marois Risky et Geneviève Hinz sur des questions éthiques. Ces questions éthiques-là, moi, je ne jette pas des pierres tout de suite là-dessus parce que c'est des enjeux qui reviennent régulièrement dans toutes les ailes parlementaires. Qu'est-ce qu'on utilise pour le chef, surtout un chef extra-parlementaire?
Tu nous l'as bien expliqué hier.
Absolument. Donc, elle se chicane et parallèlement à ça, là, l'histoire des brownies arrive parce que ça circule depuis des mois, cette affaire-là. Et Marois Risky était présente à l'inauguration du REM à Deux-Montagnes quelques jours avant que tout ça là, explose. Et elle rencontre le député fédéral Faisal El-Khoury, avec lequel elle a une conversation qui nous est rapporté. Et il faut savoir, le député fédéral Faisal El-Khoury, il y a eu beaucoup de malversations qui ont été rapportées autour de son investiture dans sa circonscription fédérale. Moi, je pense, et c'est une hypothèse, on verra si elle se confirme un jour, que Marois Risky s'est dit « Non, je ne veux pas être associée à tout ça.
Mm-hmm. »
OK? Et là, au lieu, elle était devant un choix. Elle aurait pu impliquer Pablo Rodriguez et dire « Écoute, Pablo, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on fasse le ménage, il faut qu'on règle certaines choses. » Je ne sais pas quel genre de discussion elle aurait pu avoir, mais elle aurait pu l'impliquer. Elle a choisi de le « blindsider » en bon français, c'est-à-dire prendre une décision toute seule, ne pas l'impliquer et après ça, se terrer dans le silence. Donc, quand Pablo Rodriguez dit qu'il est victime d'un putsch, c'est pas un putsch pour prendre sa place. C'est un putsch dans le sens indirect, c'est-à-dire tu le sais que ton chef ne survivra pas avec la manière dont tu as géré le renvoi de sa directrice de cabinet et ensuite de ne lui donner aucune information. Et c'est la situation dans laquelle il s'est retrouvé et ses faiblesses ont évidemment apparu. Je pense que Pablo Rodriguez était trop candide et trop naïf, un, pour être chef de parti à Québec, qui est beaucoup plus dur qu'à Ottawa en passant.
Je suis très d'accord avec ton analyse.
Et pour être chef d'un parti qui, visiblement, dans lequel là, il faut toujours faire barrage à des gens qui ont une éthique très discutable. C'est comme s'il fallait constamment surveiller. Moi, personnellement, si je faisais une course à la chefferie puis qu'on m'invitait chez un monsieur qui a des 100$ qui circulent, je me dirais, sauve-toi.
T'es en train de te dire que toutes les personnes concernées dans le dossier auraient dû avoir le flair minimum face à une situation comme celle-là.
Et quand t'es un politicien ou une politicienne, il y a des gens, des fois, qui vont vouloir prendre des photos avec toi, qui vont vouloir s'associer, qui vont vouloir t'aider, puis tu dis, non, pas le genre d'ami que je veux, OK? Mais quand t'es un candide, là, comme Pablo Rodriguez, puis que tu fais confiance à tout le monde autour de toi, bien, c'est ce que ça peut donner par moment. Donc, moi, je pense pas que Pablo Rodriguez a orchestré une grosse
arnaque magouille.
Ouais. Là. Mais je pense qu'il a manqué énormément de vigilance et que ça démontre qu'il n'y avait pas nécessairement ce qu'il fallait pour gérer le Québec. Pas capable de gérer ton parti.
Est-ce que ça expliquerait pourquoi, lors des premiers points de presse, suite à tous ces scandales-là qui sortaient, il savait pas trop quoi dire puis il disait bien, je vais aller faire des vérifications.
Il savait rien.
Était peut-être honnête, sincère. Mais en arrière de ça, il savait groupiller.
Donc, quand. Je reviens à l'extrait que tu mettais. Il dit « avec intégrité ». Je le crois, mais je pense qu'il ne l'a pas fait avec compétence.
Ah, je pense que la négligence... j'aime ton bémol.
Est vraiment grave et répréhensible.
On ne doit pas pardonner ça. On ne doit pas faire avec.
Non,
on doit tasser puis se dire ben, « malheureusement, échec et match ».
Puis, en terminant sur le Parti libéral, quand Marois Risky a dit à Pablo Rodriguez, si c'est pas des fling-flang, à Québec, c'est pas des fling-flang comme à Ottawa, elle a tellement raison, parce que Faisal El-Khoury, je vous dis, est encore député. Il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas rien, il n'y a aucun problème. Mark Carney, il s'en fout complètement. Puis on passe à un autre appel. Voyez-vous la différence de culture entre Ottawa et Québec?
Ben oui, il y a tellement de différence de culture. Ce que tu es en train de nous raconter, Antonine, ça me fait beaucoup penser à ce qui s'était passé. Tout le monde en parle entre Pablo Rodriguez et M.C. Gilles.
Oui, mais Monsieur Rodriguez. Vous voulez devenir premier ministre? On s'entend?
Oui.
Dans une campagne électorale?
Je vais devenir premier ministre. On pourra s'en parler par la suite.
Ouais.
Oui. Allez-y.
Vous voulez devenir premier ministre, donc vous allez gérer des crises, un. Et deux, vous allez représenter les 8 millions de Québécois. La question que tout le monde se pose en ce moment, là, si vous n'êtes pas capable de gérer 20 députés libéraux parce que la chicane est pognée dans la cabane, comment vous allez faire pour être premier ministre, gérer des crises?
Merci, M. Gilles, pour la question. C'est très gentil.
Ça fait plaisir.
J'en ai géré énormément de crises tout au cours de ma vie. N'oubliez pas que j'ai été élu 6 fois dans une élection générale. J'ai été nommé au cabinet, au Conseil des ministres, 4 fois.
Mm-hmm.
Jamais mon intégrité n'a été remise en doute. Et des défis à l'interne, je gérais au fédéral des ministères de milliards de dollars, dont la culture. Jamais on a remis mon intégrité.
Ouais, c'était pas l'extrait que je voulais. Je pensais que cet extrait-là, c'était l'extrait où il disait « Les libéraux sont revenus à la maison. » Et M.C. Gilles lui disait « Ouais, mais ça, ça me fait peur. »
Exactement. Les vieilles mains libérales.
Oui, et c'est exactement ce qui est arrivé parce qu'on a revu plein de donateurs libéraux se refaire autour de Pablo Rodriguez.
Absolument. Et il faut... qu'un nouveau chef, là, c'est un gros drapeau jaune pour Charles Millard qui va reprendre ce bateau-là. Là.
Bon, il avait posé la question en entrevue. Moi, j'avais dit, bon, vous parlez de votre équipe. Ça sera quoi, votre équipe? Qui seront les gens dans l'intérieur de votre équipe? Puis il avait dit qu'il allait aller voir à l'extérieur. Fait qu'on voyait un petit peu la réponse de M. Millard par rapport à ça. Pas qu'il allait sortir tout le monde, mais qu'il allait avoir quand même une sélection serrée, on dirait, sur ses candidats.
En tout cas, on lui souhaite. Honnêtement, déjà juste de gérer les conclusions des enquêtes et cette situation complètement bizarre avec Marwarski. Bonjour l'ambiance là, en ce moment.
Oui.
Donc, tout ça pour dire que la rentrée des libéraux est un peu gâchée, là, déjà, même peu importe ce qu'on voudrait dire. Et là, ça me fait passer du côté de la CAQ.
Bien sûr!
C'est le parti qui est au gouvernement.
Oui!
Et on a une course à la chefferie. Mm-hmm. Qui commence, dans laquelle il y a un petit peu de piquant, d'ailleurs.
Ah, est-ce qu'on écoute Christine Fréchette qui a répondu à Bernard Drainville? Moi, j'aime ça, chicane en politique.
C'est totalement faux et je suis vraiment déçue qu'il utilise ce type d'informations-là pour expliquer qu'il soit en retard dans la course. C'est faux, je n'ai pas obtenu d'informations confidentielles. Il le sait très bien et en tant que journaliste, je crois que ce serait souhaitable de ne pas utiliser ce type de ne pas faire ce genre d'affirmation.
Les couteaux volent bas.
Ouch!
En tant que journaliste, c'est pas totalement rigoureux. Faux, pas rigoureux. Mais là, c'est pas Christine Fréchette la semaine passée qui a dit « Oh ouais, moi, je l'ai su une semaine à l'avance de Martin Koskinen. »
Bien, en fait, ce qu'elle dit, c'est que elle nie pas qu'elle a eu certains indices.
Ben oui, non, parce que... Hey, Christine, OK, on le dit pas à personne, mais à toi, là, on te dit « Prépare-toi. »
Mais tu sais, Jeff, ça faisait un an qu'on disait que le PM allait éventuellement démissionner. Je veux dire, ça prenait-tu la tête à Papineau pour comprendre que si tu veux devenir chef de la CAQ, t'es aussi bien d'un petit peu se préparer?
Ben oui.
Puis ce que Mme Fréchette dit, puis ce qu'on entend aussi en coulisses, c'est qu'elle a voulu y aller à visière levée. C'est-à-dire qu'elle a rencontré Martin Koskinen, elle a dit « Peu importe ce qui arrive, là, moi, je vais me préparer parce que ça m'intéresse, la chefferie de la CAQ. Je vais pas pousser M. Legault nécessairement dans la falaise. »
Mais le Koski, il a dit... C'est une bonne idée de te préparer. Mais tu l'es pas personne.
Et ce qu'on entend aussi, c'est que si M. Drainville avait demandé la même rencontre, il aurait probablement obtenu les mêmes informations. Bon, là, rendu là, je voulais juger si c'est crédible ou pas.
Moi, j'oublie pas ma guerre Montréal-Québec à l'intérieur de la CAQ, là.
C'est vrai, t'as bien raison, parce que la gang autour du
premier
ministre... On
l'aurait pas donné à Bernard, ça, là, cette information-là.
T'as bien raison. Alors, elle se dit déçue, et elle l'accuse de manquer de rigueur. Et c'est drôle, hein, parce que des courses à la chefferie, vous remarquerez que quand elles sont très, très serrées, OK? Là, on ne sait pas qui va gagner. Souvent, c'est plus sale, un peu, comme course, parce que là, vraiment, il y a un enjeu. Quand c'est pas serré pantoute, comme par exemple la course où Mark Carney a été élu au fédéral... Tout le monde fait un petit peu attention.
C'est la course où Chrystia Freeland parle un peu en anglais, exact. Mais trompe-toi, parle en anglais.
En français, tu veux dire. La Québec et le
Québec, Marc, le Québec. Vas-y.
Merci.
On
Chrystia.
Est en débat des chefs, mais vas-y, parce que c'est toi le futur chef.
Exactement. Les gens vont préserver le futur chef parce qu'ils savent bien qu'ils vont aller à la guerre après avec ce général-là. Fait qu'ils ne veulent pas y arracher une jambe et un bras avant de partir à la guerre. Là, on a eu des sondages récemment qui montraient que Christine Fréchette avait quand même une avance non négligeable.
Écoute, la CAQ dépasse les libéraux dans les sondages avec Fréchette.
Mais qu'à cela ne tienne, Bernard Drainville ne veut pas préserver Christine Fréchette et laisse entendre qu'elle est la candidate de l'establishment.
Oui.
Pourquoi c'est important, ça? C'est parce qu'il veut laisser croire que M. Legault, qui est, disons, très impopulaire, qui est lié aux résultats dans les sondages, en fait, Mme Fréchette, c'est la continuité de François Legault et que Bernard Drainville, lui, est le candidat du changement qui va poser des gestes de rupture. Bon, je trouve que c'est un peu un long shot pour M. Drainville. Je lui trouve beaucoup de qualités et beaucoup de compétences à M. Drainville, mais de là à apparaître comme la nouveauté et le vent de changement, c'est sûr que face à une Christine Fréchette qui est beaucoup moins connue, Bernard Drainville, tout le monde a déjà une opinion sur Bernard Drainville. Mm-hmm. C'est pas un nouveau venu sur la scène politique. Mais étant donné justement qu'il y a une tendance qui est établie et que Mme Fréchette semble avoir un peu d'avance autant dans les sondages que dans les appuis, M. Drainville n'a pas d'autre tactique devant lui que de brasser la cage pour essayer justement de mêler un peu les cartes. Donc, une autre entrée, si on parle de celle de la CAQ parlementaire, qui est quand même un peu bizarre. Et pendant ce temps-là, il y a un premier ministre, François Legault.
Oui.
Qui est celui de qui les gens veulent plus ou moins se détacher dans la course. Et M. Legault veut continuer à gérer le Québec et veut livrer certaines choses avant de quitter, alors que des candidats qui vont prendre des positions peut-être des fois différentes sur certains enjeux. Et M. Legault veut déposer un budget avec son ministre des Finances, Éric Girard, qui risque de menotter un peu, d'attacher les mains du prochain chef jusqu'à la campagne électorale. Bref, c'est vraiment bizarre comme période politique.
Je termine avec une question. On n'écoutera pas l'extrait, mais Simon-Jolin Barrette sur les ondes de Mario Dumont aujourd'hui a dit on a la légitimité de gouverner parce qu'on a été élu par la population.
Mm-hmm.
On dirait que j'y crois plus, moi. T'sais, plus
la légitimité,
de premier, plus de premier ministre, 17 personnes qui ont annoncé leur départ ou qui sont déjà parties.
Bon, point. Tellement fragmenté que c'est plus la même équipe. Ben, donc la exactement. Légitimité
la légitimité, c'est pas seulement... l'appui du peuple aux quatre ans. Hein. La légitimité, non, c'est différentes choses. Moi, tu sais, par exemple, si on parle de Simon-Jolin Barrette, il a un projet de constitution en ce moment. Une constitution, il faut aller chercher de l'adhésion. Je trouve que le contexte n'est vraiment pas très bon présentement pour ça. En plus, qu'il y a des éléments dans ce texte-là qui font débat, notamment sur l'avortement, mais aussi sur le droit de certaines organisations à poursuivre le gouvernement ou à contester certaines lois. Honnêtement, je serais très surprise que les oppositions laissent passer ça. Oui, la CAQ est majoritaire, mais ils peuvent vraiment perdre du temps en commission parlementaire, faire ce qu'on appelle du filibustering, c'est-à-dire continuer, prendre tous les temps de parole, demander des amendements. Puis là, tu fais toutes les gamics pour que ce soit le plus long possible. Et pour s'en sortir, le gouvernement doit imposer un baillon pour réussir à se sortir de ça. Et passer une constitution sous baillon, ça n'arrivera pas.
Non.
Donc, moi, je pense pas que ça va aboutir, ce projet-là. Mais vraiment, c'est une situation qui est très étrange pour la CAQ et le premier ministre va devoir se lever, répondre aux questions en chambre, va devoir prendre position le matin sur l'actualité.
Alors qu'il n'y a plus de crédibilité.
Ben, puis aussi, c'est que des fois, il risque d'être plus en phase avec un candidat, des fois avec un autre. Comment tu fais pour faire ces arbitrages-là? C'est vraiment très bizarre. Et d'après moi, ce ne sera pas la session parlementaire la plus productive au niveau législatif, politique, public.
Mais je pense en même temps, je conclue là-dessus, que c'est correct comme ça, même si j'aime quand les choses avancent, parce que t'sais, ce gouvernement-là peut pas faire des grands projets de loi qui vont changer la nation et la société.
Mais ça, ils n'ont pas la légitimité pour le faire. C'est tout simplement ça. Et on se demande honnêtement pourquoi le premier ministre n'a pas prorogé, c'est-à-dire mis l'Assemblée nationale sur pause. Oui, parce qu'il voulait montrer une certaine continuité, mais ça risque de créer vraiment des situations absolument malaisantes. Donc évidemment, ça va nous faire beaucoup de sujets pour nous à aborder. Puis quand la course à la chefferie va être terminée, il va rester quelques semaines à la session parlementaire.
Oui.
Et après, c'est l'été, c'est la pré-campagne électorale.
C'est la campagne électorale, exactement. Caucus avec Antonine Iaccarini, chaque jour dans l'émission d'En jase du lundi au jeudi. Anto, t'es en congé demain, c'est l'ami Victor Henriquez qui va te remplacer.
Vous êtes entre bonnes mains.
Yes, donc on se reparle jeudi. Pascal, après la pause, on va parler avec la DG de la Société de développement commercial au niveau de Montcalm, donc Marie Langlois. On va parler de sa rencontre hier à huis clos avec la ville sur les travaux du tramway et aussi de ses citoyens qui veulent que l'avenue Cartier soit piétonne. Également, on va parler avec notre chroniqueur Irénée Rutema. On ne parlera pas de politique municipale avec Irénée exceptionnellement cette semaine, mais on va plus parler du mois de l'histoire des Noirs avec lui. Donc, on a parlé hier de sensibilisation, la semaine nationale de prévention suicide, et là, on va parler du mois de l'histoire des Noirs. Donc, restez avec nous après cette courte pause à l'émission. On en jase.
On parlait de café en début de show, puis à quel point on aimerait ça tous devenir barista dans cette émission-là. Antonine, moi, Jeff, on se disait que ce serait un peu notre refuge mental quand ça brasse, d'être derrière un comptoir, puis d'accueillir les clients, puis de parler de café, puis de triper. Bien, chez Sobab, c'est ça. Je pense que c'est là où est venue notre idée en tête. Quand on est allé chez Sobab, puis on est des bons clients là-bas, on s'est rendu compte à quel point c'est chaleureux, à quel point ça fait du bien d'y être, puis que ça arrête notre journée. Un bon café, ça commence par une bonne machine, ça commence par les bons gens pour les bons conseils. Et chez Sobab, 3e avenue, ici à Québec, entreprise familiale, c'est là où on trouve un peu ce kick-là. Belle journée à l'horizon, avec le soleil qu'on a. Il y en aura d'autres pour tout au long de la semaine. Une belle marche dans Limoilou, accompagnée d'un bon café chaud. Ça fait du bien. Sinon, peut-être qu'à la maison, c'est là où vous avez le temps de le prendre. Bien, des conseils personnalisés, une machine, c'est un investissement qui va faire la différence dans tous vos matins. Sans exception. Alors, pour s'offrir la crème de la crème, avec les budgets que l'on a à la maison, pour se faire orienter vers des machines peut-être manuelles, automatiques, la marque de votre choix, avec des experts, c'est chez Café Sobab. CaféSobab.com aussi, ça existe pour l'achat de machines, d'accessoires, mais rien ne vaut la visite sur la 3e avenue ou encore sur leur page Facebook et Instagram. En plus, il y a souvent des concours. Café Sobab sur la 3e avenue ou visitez CaféSobab.com.
Ce week-end...
L'émission d'En jase, ton émission du midi. Il est présentement midi 41 minutes. On va vous proposer dans quelques instants une belle entrevue avec la directrice générale de la Société de développement commercial de Montcalm, Marie Langlois, où on va revenir sur ces fameux travaux du tramway qui font très jaser depuis leur annonce lundi dernier. Avant, je vous parle de météo. Il fait présentement moins 11 degrés, c'est moins 10 degrés au maximum pour aujourd'hui, généralement ensoleillé. Moins 6 demain, faible neige intermittente. Et également pour jeudi, c'est moins 10 degrés, alternance de soleil et nuages. Et vendredi, à plus long terme, c'est moins 9 degrés. Donc, c'est une belle semaine d'hiver sur Québec. Pascal, nos auditeurs ont énormément réagi. Oh, un peu de circule, Pascal. Va y donc,
après oui, ça. Juste avant de passer à l'entrevue, panne de camion sur Duplessis-Sud avant 4 Bourgeois. Les policiers sont sur place. Si jamais vous avez de l'information, 88-971-1021. Merci pour vos yeux, vos oreilles sur la route.
OK, oui. Oui, Pascal, comme je disais, on a énormément jasé et ça fait réagir nos auditeurs. Les fameux travaux sur le tramway en disant « Mais mon Dieu! » La ville va être éventrée. Qu'est-ce qui va arriver à nos commerçants? Est-ce qu'on va complètement échapper notre centre-ville pour le tramway? Alors, ça nous a donné l'idée de parler avec justement quelqu'un qui s'occupe des commerçants au centre-ville, c'est-à-dire Marie Langlois de la SDC Montcalm. Et pourquoi on le fait aujourd'hui, Pascal? C'est parce qu'hier, ils ont eu une rencontre avec le maire de Québec. Donc, on va s'informer sur comment s'est passée cette rencontre avec le maire de Québec. Madame Langlois, merci de participer à l'émission d'En jase.
Bonjour. Je voulais juste dire que on n'a pas rencontré le maire. Monsieur le maire n'était pas là. C'était une rencontre avec le développement économique, le bureau des grands événements, l'ensemble des SDC, avec aussi, je pense, des RGA, des regroupements de gens d'affaires, et aussi le transport pour nous parler de la mobilité lors des travaux.
Alors, est-ce que le maire vous a manqué dans cette rencontre-là?
Écoutez, ce que nous, on constate, là, on a réécouté, ils nous ont présenté à peu près ce que vous avez eu dans les médias, les travaux, le transport en commun, les modifications, c'est pas mal tout ce qu'on a déjà vu. On n'a pas eu de surprise, ah, on vient de découvrir quelque chose de nouveau. Non. Par rapport aux subventions pour les commerçants, on va en avoir jusqu'à 30 000. Bon, ben, il y a certaines conditions. On va avoir aussi, chaque SDC va pouvoir avoir accès à 30 000 $ pour faire la promotion de son quartier par année. Bon, ça, c'est aussi des choses qu'on savait. Ce qu'on sait pas, c'est des dates. Mais il y a personne pour nous répondre. Il y a plein de gens autour de la table. On était en distance, là. Il y a plein de gens prêts à nous aider, mais pas capables de nous donner de réponse okay. Parce qu'on n'a pas de date.
Donc, avant de passer à ces dates-là et à ces échéanciers-là, trouvez-vous que c'est un manque de respect du maire Marchand de ne pas avoir été là et que vous êtes des commerçants importants pour la vitalité de la ville?
Écoutez, j'imagine que pour lui, il avait envoyé sa délégation et que c'était pour lui suffisant. Nous, de toute façon...
Mais vous, est-ce que vous auriez aimé parler au maire de Québec?
S'il y a plus de réponses, oui. Pour l'instant, il n'y a pas plus de réponses. Ils ne sont pas capables de nous donner de date. Fait que nous autres, on est comme figés. Comme moi, je suis figée, j'ai des événements qui s'en viennent. Est-ce que je vais être capable d'y tenir? Est-ce que les travaux vont être rendus là? Mes commerçants, tout le monde se pose des questions. Tout le monde est inquiet. Mais personne n'est capable de nous donner de date. C'est la chose qu'on reproche le plus à ce projet-là, c'est d'avoir été lancé sans... il manque la pièce principale.
Vous pensez l'avoir quand? Parce que là, ça, c'est comme quelque chose que vous auriez dû avoir hier, là, si vous comprenez ma prise de parole.
Oui, ben oui, je comprends. On aurait dû l'avoir avant même qu'il commence à parler publiquement des travaux.
Il aurait fallu qu'on le sache. Dans d'autres situations, est-ce que c'était le cas? Vous saviez les choses bien en avance, en amont, dans des projets structurels comme ça? Je comprends que là... on est dans un projet qui, pour la première fois, la Ville de Québec voit là, arriver sur son territoire, mais il y a quand même des comparatifs qu'on est capable de faire.
Bien, là, présentement, nous autres, je sais que juste avant que j'arrive à la SDC Montcalm, il y a eu des gros travaux sur l'avenue Cartier, justement. Ça doit faire à peu près une dizaine d'années de ça. La collaboration, selon l'ancien DG, ça s'était bien déroulé, mais c'était pas un dossier de cette envergure-là. Il y avait un début, il y avait une fin, et c'était pas étalé sur des années. Fait que c'était très différent pour ce qui est de mon quartier. Donc, pour moi. Si je prends en comparaison la SDC de Saint-Sauveur, ça fait 3 ans qu'ils sont dans les travaux. Mm-hmm. Pas nécessairement des travaux pour le tramway. Et c'est difficile pour les commerçants, c'est difficile pour la SDC, c'est compliqué de maintenir un achalandage suffisant pour pas que tous ces commerces-là ferment. Nous, on regarde ça de loin et on se dit, bon, ce qui s'en vient, c'est encore plus gros.
Avez-vous,
encore plus long.
Ouais. Avez-vous des craintes, justement, que des commerces ferment dans votre secteur?
Oui, ça, c'est sûr. J'ai des commerçants qui réfléchissent. Hein. Si on se met dans la tête d'un commerçant, c'est ta business, tu renouvelles ton loyer, puis, mettons, à la fin de l'été, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je renouvelle ici? Est-ce que je m'en vais ailleurs? Est-ce que... Il y en a plusieurs qui sont dans ces réflexions-là. Là, présentement, il y en a un qui a fermé sur René Lévesque, là, qui était les accueillants, les déjeuners. Mm-hmm. Et eux autres, c'est sûr que c'est pas l'avenue des travaux, mais ça l'a probablement ça a pesé dans la décision de partir ailleurs. Parce que sur René Lévesque, dans un futur proche, ça va être pire que sur l'avenue Cartier. Là.
On avait parlé avec un commerçant justement sur René Lévesque qui nous disait ça va être circulation locale seulement, j'ai un valet parking, j'ai un stationnement à l'arrière. Est-ce que vous avez eu des informations là-dessus au moins hier, à savoir, même si c'est circulation locale, que les gens vont pouvoir avoir accès à vos commerces?
Oui, ça, ils nous garantissent que peu importe où dans la ville de Québec, l'accès aux résidences, l'accès au commerce et l'accès aussi pour les piétons puis les vélos, on n'est pas supposé avoir de problème à ce niveau-là. Sauf que quand on arrive dans des travaux comme ça, quand on sait que c'est compliqué à aller se stationner, parce que ça, c'est une autre réponse qu'on n'a pas. Moi, je me suis fait dire sur René Lévesque qu'on enlève tous les stationnements. J'ai fait « ouch ». Ouch! Tout ce monde-là, ils vont aller où? Ouais. Là, ils sont en train de réfléchir pour modifier des stationnements dans les rues parallèles, dans le même coin, mais on n'en sait pas plus. Mais ça aussi, ça fait une pression, ça, déplacer comme ça des stationnements, ça fait une pression sur les rues, sur les autres commerces. Fait que on devrait savoir ça éventuellement. Mais tous les stationnements sur René Lévesque vont être fermés. Je leur ai demandé pourquoi ils faisaient ça immédiatement. Pourquoi ils n'attendaient pas? Puis on m'a répondu que de toute façon, ces stationnements-là auraient été enlevés avec l'arrivée du tramway. Ça, on le savait, parce qu'il n'y a pas de place au stationnement une fois que le tramway va être sur René Lévesque. Ça, on le savait depuis quelques années déjà. Mais là, pourquoi, là, toutes les enlever alors qu'on n'est pas encore rendu à l'étape de mettre les rails puis d'avoir le tramway, là?
On se demande pourquoi est-ce que vous criez que c'est un état d'urgence quasiment, qu'il y a des commerces qui vont fermer tout ça, mais que la Ville ne l'a pas vu de la même manière. Où est-ce qu'on a échappé tout cela? C'est que c'était leur part de risque et ils l'assument sans le dire?
Je pense que l'analyse, quand on en avait parlé, les premières années qui nous avaient fait venir, je rentrais à la SDC, ils avaient fait venir les commerçants dans une salle, de voici le projet du tramway. Voici comment ça va se passer, tout ça. Et les commerçants ont dit, mais si ça se passe tel quel, si le projet reste tel quel, il y a des grosses chances que vous fassiez fermer la rue. Et on nous avait répondu à l'époque, il va en arriver d'autres commerçants. Fait que les gens, les commerçants de l'avenue Cartier, de notre secteur, là, René Lévesque, quand je parle de l'avenue Cartier, je parle de Montcalm, sont partis avec cette idée-là dans la tête.
Et que vous êtes remplaçable.
Ben oui. Et depuis ce temps-là, on n'a pas vraiment de... on prend soin de nos commerçants. On entend beaucoup dans le discours, on prend soin de notre monde, mais on prend soin de nos commerçants, c'est autre chose. Présentement, de toute façon, ils peuvent même pas prendre soin des commerçants quand ils sont même pas capables de leur dire à telle date, approximativement, il va y avoir des travaux, la rue va être contournée, il y aura plus d'autobus dans notre secteur, ils vont passer sur Grande Allée. Les gens semblent être positifs que ça va bien voyager, mais nous, on est inquiets aussi pour Chemin Sainte-Foy. Chemin Sainte-Foy, il va aussi avoir une redirection vers le Chemin Sainte-Foy qui, De chaque côté, il y a une voie de réservée au vélo. Donc, il va y avoir des bus qui vont continuer sur chemin Sainte-Foy, plus le trafic, ça commence à être inquiétant. Fait que on regarde tout ça, puis on se dit OK, on prend soin de nos commerçants. Ils nous disent aussi qu'ils veulent tout faire pour qu'il y ait le moins d'impact négatif possible pour les commerces. Mais pour ça, il faut être capable de prévoir, il faut être capable de trouver des outils, mais on n'a pas notre base, on n'a pas nos dates. Fait qu'on peut pas dire, OK, on va partir une campagne de venir vous stationner dans mon camp parce qu'on sait même pas si ça va se rendre à ce stationnement-là. Fait que tout ça fait en sorte que, bon, autant la SDC, autant les commerçants, puis hier, à l'entour de la table, on posait des questions, mais on n'a pas de réponse.
Madame Marie Langlois, directrice générale de la SDC de Montcalm, on vous souhaite vraiment bon courage. Je suis vraiment fâché à l'heure actuelle d'entendre que le maire et la Ville de Québec ne prennent pas plus soin de vous. Les commerçants qui faites vivre le Vieux-Québec, qui faites vivre la ville. Tenez-nous au courant des développements, s'il vous plaît. On se refait une entrevue dès que vous avez un petit peu plus d'informations, parce que pour moi, ça fait pas de sens, la rencontre que vous avez eue hier. Une rencontre d'information, finalement, il n'y avait pas d'information.
Pas de nouvelle information. L'information qui était déjà disponible dans les médias, qu'on avait déjà vue là, dans les derniers jours. Mmh. Mais il n'y avait pas de nouvelles informations, non.
Courage, Mme Langlois. On va continuer, nous, à faire vivre votre voix présentement dans les médias pour que le maire Marchand se réveille et bouge plus rapidement.
Parfait, merci beaucoup.
Merci beaucoup, au revoir. C'était Marie Langlois, directrice générale de la SDC de Montcalm. Pascal, ça n'a aucun sens.
Mais
ben,
c'est
vient
gros quand même. Moi, je l'ai clippé ce bout-là là, pendant qu'on jasait avec madame parce que je trouve ça important. C'est une allégation, c'est pas une accusation, mais de se dire, ben nous, ce qu'on nous a répondu quand on a précisé qu'on avait des inquiétudes, c'est qu'il allait avoir d'autres commerçants qui allaient prendre notre place.
Hey, c'est super. Pas avoir de considération envers ceux qui te font vivre.
En tout cas, ils se sont dit que le projet devait aller de l'avant puis que les risques étaient associés au départ de certains commerçants, à la faillite peut-être de d'autres, etc., ne valaient pas la peine d'être plus considérés que ça. Selon ce qu'on vient de jaser, il faut faire attention parce que d'autres viendront puis profiteront de la suite. Mais pourquoi est-ce que ça ne peut pas être ceux qui vont avoir vécu les travaux, qui vont avoir essayé de survivre, de travailler avec la ville, ceux qui sont présents, qui font des assemblées comme ça, qui ne pourraient pas profiter de la suite?
Ben exactement. Ça devrait être eux, normalement. On a des commerçants qui sont là depuis longtemps sur René Lévesque. Hey, moi, je passe à la microbrasserie Grindel, qui a déménagé de Saint-Vallier parce qu'il était dans les travaux sur Saint-Vallier puis se retrouve dans les travaux du tramway.
Absolument. Puis ça a pris des années là, quand même bien faire les choses. Mais je me rappelle, j'étais dans un resto à Limoilou. Là. Je me suis ramassée à côté d'un des copropriétaires.
Ouais.
Puis les deux ont mangé tout seul, fait qu'on s'est mis à jaser. Puis ça a été un brouhaha, là. Ça a été un cassage de tête. C'est des risques financiers.
Ils s'en vont
là, puis ils repartent là-dedans. Puis dans le fond, la réponse qu'ils ont, si on en croit Mme Langlois qui vient nous parler de la MRC Montcalm, c'est qu'ils sont pas trop considérés.
Non.
Dans ces travaux-là, puis les complexités autour. Là.
C'est tellement triste. Isabelle qui écrit dans le même ordre d'idée que ce matin, Jeff, parce qu'on parlait des feux de foyer ce matin, il s'en fout des commerces présents. Les promoteurs immobiliers vont acheter ces immeubles laissés vacants. Ils vont les transformer en logements et petits commerces émergents au rez-de-chaussée. Donc, c'est tellement un manque de respect envers ceux qui te font vivre à l'heure actuelle. Êtes-vous aussi fâché que moi puis Pascal CV au 418-971-1021? Écrivez-nous. Ouf, que c'est décourageant ce qui se passe.
Je réfléchissais dans ma voiture hier, puis je me disais, si j'étais commerçante, restauratrice, peu importe, dans ces secteurs-là, j'essaierais d'utiliser la méthode pandémie, de réfléchir à l'extérieur de la boîte, de me dire, bon, je me remets-tu à faire des genres de boîtes take-out que je vais livrer moi-même, donc c'est tout à moi qui sort de mon quartier, qui fait affaire avec les constructions. Tu sais, j'essaierais de trouver une alternative à mon commerce actuel. Puis je pense que les gens, s'ils voient ça passer sur les réseaux sociaux, vont avoir l'œil, l'oreille ouverte, vont vouloir aider les entreprises qui, finalement, ne sont pas aidées du tout par la ville, de ce qu'on comprend.
Mario qui écrit, je suis sûr qu'il y a du monde de la SDC qui ont voté Marchand. En effet, c'est sûrement ça le pire. Le monde était au courant du projet et le monde a voté Marchand. Fait que rendu là...
Il y a peu d'empathie, compassion. Hein?
Oui, c'est ça. Là-dessus... Oui et non, je suis partagé, puis je t'explique. On savait pas l'ampleur que ça allait prendre, puis on savait surtout pas que ça allait être géré comme ça. Là. sans considération pour les commerçants. Donc, oui, on le savait qu'il allait avoir des travaux en importance, mais moi, c'est de la façon qu'on fait les choses. Je suis full têteux, moi, sur le processus dans la vie. Là. Puis là, le processus, il me chatouille.
J'ai un profond malaise avec le fait de dire vous êtes remplaçable. Vous êtes là depuis des années.
Ah, moi aussi.
Vous payez vos taxes, faites rouler l'économie. Vous tentez de survivre dans tout ce qu'on a vécu à travers la dernière décennie. J'ai un profond malaise.
Ah oui. On parle de mépris aussi envers les commerçants là, par texto. Continuez de réagir au 418-971-1021 pour ce qui est des travaux qu'on vient d'apprendre avec Marie Langlois. On le rappelle, les commerçants de Montcalm, donc ça, c'est René Lévesque, l'avenue Cartier, des commerces qui vivent là depuis 10, 12, 15 ans, qui rendent la ville belle, qui rendent la ville attrayante. Bien, le maire Marchand n'était pas à la rencontre avec eux hier. Ils n'ont pas d'échéancier de travaux. Ils vont se faire enlever toute leur place de stationnement. Et Pascal, répète-nous ce que le maire Marchand leur a déjà dit.
Bien, si c'est pas vous qui allez être là, ça sera d'autres. Mais ça, c'est des propos qui ont été rapportés par Mme Langlois. Écoute, on n'était pas là.
C'est
on
ça.
On peut pas corroborer, mais on peut entendre ce que Mme Langlois vient de nous dire dans l'entrevue.
Très, 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 très désolant ce qui se passe à l'heure actuelle dans notre belle ville de Québec, parce que là, on n'a même pas parlé des patinoires qui vont être fermées, des places en moins en camp de jour, puis de tout ce tralala-là. D'ailleurs, Mathias Turcotte est au point de presse présentement, pré-conseil. Il sera dans le retour de Gravel pour discuter de ces sujets chauds de l'actualité.
Je dois rappeler que sur les autoroutes, c'est pas toujours facile. Et c'est le cas en ce moment sur Duplessis, la voie droite avant la sortie Sainte-Foy. Il y a un véhicule en panne. La police est déjà là. C'est direction sud. Alors, je rappelle, direction sud, Duplessis, voie de droite. Et ça a énormément refoulé les gens qui y passaient. Donc, un petit trafic à prévoir entre boulevard du Versant Nord et chemin Sainte-Foy.
Il est très arrogant et en plus, les gens de quartier ont voté pour lui. C'est tellement triste, nous écrit un auditeur, une auditrice, Éric, qui nous écrit « Le maire Marchand devra gérer l'impact économique de son improvisation ». Je trouve que c'est bien dit. Franchement, là, c'est bien dit.
Mais c'est pour ça que je ne le saisis pas. Si c'est le cas, là, si on a dit ça, c'est quand même un maire qui est beaucoup sur la finance, qui est beaucoup d'aller renflouer les coffres, aller chercher de nouvelles taxes. Hein. Vous savez, ça fait jaser là, lors de son dernier mandat, comment on est allé fouiller dans vos poches. Je la saisis pas très bien, celle-ci. Peut-être qu'il a évalué le pourcentage de commerces qui peuvent fermer, faire faillite, puis se sont dit, bah, pour un espace d'un an, on est capable de faire avec, puis pour la suite des choses, ce sera d'autres commerçants, comme il semble avoir dit à Mme Langlois de la MRC de Montcalm, mais habituellement, il est quand même sur ses chiffres. Là.
Ben oui, puis il a eu l'audace de dire ça en point de presse la semaine dernière.
On vous l'a dit, Nicolas l'a mesuré, à travers les différents grandes villes canadiennes, à part Montréal, puis avec des éléments qui sont à notre avantage. C'est le plus généreux. Il y a des villes qui le font même pas.
C'est le plus généreux programme pour les commerçants à l'échelle canadienne.
Mais à quel moment on arrête de toujours se comparer dans tous les contextes, dans tous les défis, dans tous les enjeux à d'autres choses?
Oui, c'est un bon point.
C'est pas parce qu'on peut se comparer positivement dans quelque chose qu'on n'a pas d'amélioration à faire. Mm-hmm. Je pense que je suis une personne qui, normalement, est smart.
Ah ouais.
Mais il y en a des plus smart. Il y en a des moins smart. Mais ça veut pas dire que je peux pas être plus smart encore que ce que je suis en ce moment.
En effet.
Tu sais, je suis un peu... ça commence à m'horripiler. Je commence à me gratter.
Ouais,
là,
moi aussi. Là, que, on est toujours les meilleurs.
Puis on l'avait questionné là-dessus dans l'émission. On l'avait reçu en entrevue. Puis je me rappelle très bien de dire, M. Marchand, à quel moment on arrête de se comparer. Là, puis qu'on se concentre sur nous.
C'est ça.
Ce qu'on fait de bon, parfait. Mais ce qu'on fait de bon peut être mieux aussi.
Ben
s'il y a des gens qui nous amènent à la table des problématiques associées à ça. Là.
Ben non, ce matin, dans le pit-up, je riais parce que c'est toujours de l'idéologie. Puis je disais, tu sais, si on vient dire, il me semble que les poils à boule, on est juste Québec à le faire, on aurait pu se garder une gêne. Eh bien non, toi, Pascal, tu veux pas sauver des vies? Voyons, t'es donc bien méchante. Pourquoi t'acceptes de tuer des gens? On est toujours dans cette idéologie-là, mais on prend pas soin de la personne qui vit dans la ville avec cette idéologie-là. C'est ce qui m'agresse de plus en plus avec le maire Marchand. tristesse olympique, une mairesse plante numéro 2 qu'on reçoit par texto.
Moi, il y a quelque chose dans la vie là, que j'essaie d'appliquer le plus possible. Là. Écouter, c'est pas se défendre.
Non.
Quand t'écoutes, t'es pas supposé essayer de te défendre. Écouter, c'est essayer de comprendre. Pas écouter pour répondre. Il y a une grande différence entre les deux.
Comprendre et apporter les modifications souhaitées par les gens qui ont les deux mains dedans. Et les deux pieds dedans, c'est-à-dire les commerçants. On fait une courte pause à Boulevard 102, l'émission d'Angers. Par la suite, on va continuer sur le maire Marchand, Pascal, parce que Rémi Villemur veut comparer la vidéo. Est-ce que tu as vu la vidéo hier de Soraya Martinez qui a fait deux
crevaisons? Ouais. Oui.
Donc, on va comparer la vidéo de Soraya Martinez, tu fais bien de le préciser, la mairesse de Montréal, et la petite vidéo de promotion de Bruno Marchand de la semaine passée, où on le voit sur son vélo faire son petit shake, rentrer à l'hôtel de ville, prendre les escaliers. Je veux pas trop m'aventurer sur ce que Rémi va en conclure, mais j'ai ma petite idée qu'on va parler de quelqu'un qui est proche de ses citoyens, quelqu'un qui est plus éloigné. Je dis ça, puis je dis rien. Réponse après cette courte pause à l'émission d'En Jazz.
Le midi.
Pascal, c'est vrai.
Oui.
Avant la pause, là, les gens nous écrivent par texto « On veut des manchettes! On veut des manchettes! »
Ben oui, parce que ça roule quand même dans l'actualité.
Ouais, et là, il y a quelque chose avec la SAC.
Ben, plus que ça, moi, j'irais avec toute l'enveloppe des accommodements religieux. Et là, ça s'est rendu à la SAC.
Raconte-nous
écoute ça. Ça, c'est fascinant, mais si vous êtes un homme puis vous allez à la SAC et pour quelconque revendication, religion, etc., vous ne voulez pas être servi par des femmes, c'est accepté. Donc, vous pouvez réclamer un employé masculin. C'est un accommodement religieux qui est dénoncé par une avocate. Elle s'appelle Christiane Pelchat, mais c'est un accommodement religieux qui a été approuvé. Et elle était de passage aujourd'hui en commission parlementaire. C'est la co-auteure du rapport sur le respect des principes de loi et de la laïcité de l'État sur les influences religieuses. Et ça, c'est une de ses trouvailles dans le cadre de ses recherches, comme quoi on a découvert que la Société d'État, la SAAQ, accommodait les clients en vertu d'un avis de la Commission des droits et libertés qu'une personne peut demander à être servi par un homme si jamais elle était servie par une femme et sa religion donne pas accès au fait d'être servie par une femme. Donc, ils ont avoué qu'on pouvait donner satisfaction à un homme qui ne voulait pas être servi par une femme. On a dit que c'est OK, qu'on va donner un accommodement raisonnable, mais pour cette avocate-là, c'est tout à fait déraisonnable.
Mais hein, ça n'a pas de sens.
Elle est allée de l'avant avec une prise de parole. Elle a dit « Imaginez-vous, Madame la députée, que si je vous disais « Ce monsieur-là ne veut pas être servi par une personne noire, qu'est-ce que vous diriez? On va lui donner un accommodement raisonnable, on va lui donner une petite Madame blanche parce qu'il ne veut pas être servi par une dame noire. » C'est une grave atteinte aux droits et non un accommodement. C'est déraisonnable pour elle et c'est ce qu'elle plaidait du côté de la SAAQ. Le Journal de Québec a tenté de rejoindre les responsables, mais on n'a pas répondu aux questions au moment de sortir l'article. Marc-Antoine Decoy, en paix avec sa décision. Quelle décision? Ben, c'est un sportif, d'abord. Et ça ne lui tente plus de jouer au football. Donc, il a annoncé sa retraite du football avec beaucoup d'émotion. Il l'a fait dans le vestiaire des Alouettes au stade olympique. Et c'est le Québécois, quand même, qui a ravi plusieurs cœurs, qui a impressionné beaucoup. Et il dit « Je dois accepter le fait que je suis en paix avec cette décision. » Alors, pour Decoy, c'est terminé le football. Et ça me faisait bien rire ce matin quand Max ramenait le fait qu'il avait été connu pour une grande déclaration comme quoi « Faut parler en français ». On parle en français.
Exactement. Il y avait dit personne voulait nous voir ici. Tout était en anglais après justement la conquête de la Coupe Grey. Alors, Marc-Antoine Decoy, on lui souhaite une bonne retraite. Moi, j'ai l'impression qu'on va le revoir comme entraîneur en quelque part, là, assez rapidement.
C'est rare que hein, t'enlèves le footballeur et le football
exactement.
De l'homme.
Exactement.
Question syndicale, on réclame une mise au rang encore plus. C'est le même qu'on l'écrit dans le soleil, mais c'est surtout le fait que la CAQ doit changer de cap. C'est selon les syndicats, parce que selon ce que Legault a mis en place pour eux, ça ne va pas de soi. Donc, si la CAQ veut vraiment changer, si vraiment elle veut être élue, si elle veut soumettre aux électeurs à l'automne prochain, on a besoin que les projets de loi sur la Constitution prennent le bord, donc qu'il y ait beaucoup plus de travail qui soit fait au niveau même du parti. On doit changer de cap, tout simplement. Et ça, c'est une prise de parole des syndicats. Je dois parler de la FIPEG. C'est rare qu'on en parle, mais c'est encore sur l'interdiction des signes religieux. Et cette fois-ci, on en parle dans les milieux de garde. Donc, on est aux prises avec une pénurie de main-d'œuvre et le fait qu'on demande un moratoire sur l'interdiction du port de signes religieux pour les éducatrices, on a peur que ça crée encore plus de dommages au niveau de la main-d'œuvre dans nos services de garde.
Merci beaucoup, Pascal. C'est un commerce sur deux fermes. On va commencer à ressembler à Saint-Roch et on va avoir de la misère à attirer le monde pour réinvestir. C'est Sébastien qui nous écrit ça. Et merci à Chris. Moi, j'aime toujours ça quand les auditeurs nous donnent un autre côté de la médaille. Hey, faites attention, vous autres, vous êtes en train de réallumer les haters de Bruno Marchand avec des bonhommes sourires. Je crois que tout se balance dans la vie. Certains commerçants vont trouver le bon angle et peut-être même faire plus d'argent comme pendant la COVID. Merci d'interagir au 418-971-1021. Là, c'est vrai, Pascal. Après la pause, c'est Rémi Villemur. On compare les vidéos de Soraya Ferreira Martinez, la mairesse de Montréal hier, qui a fait deux flats, et celui de Bruno Marchand de son autopromotion qui commence avec lui sur son vélo dans son salon. On va regarder qui est plus proche de ses citoyens que l'autre. La réponse après la pause.
En prescrivant certains médicaments ou en gérant des problèmes chroniques comme le diabète ou les maladies cardiovasculaires, nos pharmaciens vous accompagnent dans votre parcours santé avec des soins personnalisés. Consultez votre pharmacien propriétaire affilié à Proxim dès aujourd'hui. Les pharmaciens sont les seuls responsables de l'exercice de la pharmacie. Certaines conditions s'appliquent.
Le fin entre dans le ring. Les pas dumplings frappent fort. Ouch! 24 bouchées! KO instantané! Incroyable! 24 pop dumplings. Un plaisir assuré.
Dyson. Bouffe-taille avec du kick.
Chez Logisco, notre engagement est d'offrir des appartements où les gens se sentent bien.
My God, mon amour, t'as pas l'air bien.
Je peux bien faire tout. Je pense que j'ai pogné.
Que t'as pogné quoi?
Le gastro!
Ben là, ça veut dire que je l'ai pogné moi aussi?
Tout va bien aller. Logisco.
Je peux pas aller au bureau.
Plus de 6000 appartements à Québec.
Es-tu prête pour la semaine de relâche?
Presque. J'ai un petit souci de santé à régler avant de partir.
Appelle Centre Innovasoins. Tous les services infirmiers sont bien pris en charge.
Centre Innovasoins Cap-Rouge, bonjour. Oui, nous pouvons prendre soin de votre santé aujourd'hui ou demain.
Demain matin?
Buzz, à Boulevard Saint-Denis.
Il est présentement 13h12 minutes. Vous êtes à l'écoute de l'émission Dans Jazz. C'est une émission de midi à 14h avec Jeff Fortin, Pascal CV, émission d'actualité où il y a des fois, on vous sort des petits bijoux comme celui qu'on vient de sortir, Pascal CV. Pas grave, ces commerçants s'en vont de mon cam. Il y en a d'autres qui vont y remplacer.
Il y en aura d'autres. Écoute, j'étais vraiment dans la conversation. J'ai sorti la clip. On parlait avec Mme Langlois, qui est directrice du côté, directrice générale du côté de la MRC Montcalm. Je vais même aller glisser un petit mot à l'équipe du retour. D'après moi, ils vont revenir là-dessus. C'est des allégations, on s'entend. Là, c'est des gens qui étaient dans une salle, qui ont parlé d'une rencontre qu'ils ont eue avec la Ville de Québec, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut aborder parce qu'il ne semble pas être fort aidé, les commerçants dans ce coin-là, non, pour les travaux du tramway.
Clairement. Et Mathias Turcotte, notre journaliste sur le terrain, celui que vous pouvez rejoindre également à l'adresse courriel citoyen@commercialblvd.fm. On l'a envoyé en mission. Il va poser des questions au maire Marchand là-dessus. Car le point de presse préconseil débute dans 2 minutes, M. Marchand. Préparez-vous. Mathias va mordre avec les commerçants de Montcalm. 418-971-101 pour nous rejoindre, évidemment, vous le savez, parce que vous intéressez en très grand nombre. BLVD.fm, c'est les meilleurs moments de l'émission. L'entrevue avec Marie Langlois va s'y retrouver après l'émission. Et ça inclut la web radio, notre application BLVD101 sur App Store, Google Play Store, notre haut-parleur intelligent où on dit écoutez BLVD et vous avez nos voix dans votre haut-parleur intelligent. Twitch.tv/BLVD/FM pour venir nous voir. Et également, abonnez-vous à notre page YouTube, le meilleur contenu de Boulevard. S'y retrouvent les grandes entrevues, notamment celle avec Bernard Drainville hier. Il est animateur au 99.5 Montréal. On adore lui parler à chaque mardi et jeudi aux alentours de 13h10. Rémi Villemur, comment vas-tu?
Hey, je vais tellement bien. La seule affaire, par contre, c'est que je viens de réaliser, là, moi, on fait ça en visioconférence, cette chronique-là, il faut vraiment jamais me faire couper les cheveux.
Ah ben écoute, oui, je mettrai pas la vidéo vers toi pour nos collègues, nos auditeurs, Rémi. Je vais juste vraiment zoomer très près de tes cheveux, OK, ça va?
T'es donc bon.
Ouais,
T'exagères.
Et fait-il avec la pose de mannequin. Rémi, ça tombe bien, on vient de déchirer notre chemise sur le maire Marchand. On n'est plus capable qu'ils ne prennent pas soin des commerçants de la Ville de Québec, puis les travaux du tramway ne font que commencer. Et là, parlant de ville en décrépitude, on n'a pas le choix de parler de Montréal et de ses nids d'autruches. Ce n'est plus des nids de poules, mais bien des nids d'autruches. Et de la mairesse Soraya Ferreira Martinez. Si tu le permets, on va écouter sa petite vidéo d'hier sympathique après un incident qui lui est arrivé. Hop. Comment ça fonctionnait tantôt?
Si tu veux, je peux résumer la vidéo.
Vas-y, je vais aller la chercher de toute façon en attendant.
En gros, hier soir, assez tard, là, il faisait noir, elle roulait sur la rue Notre-Dame à Montréal. Ça, c'est une rue qui est parmi les plus affectées par les nids de poules, là, surtout en direction vers l'ouest. Et elle a pogné deux flats. Donc, il y a 4 roues sur une voiture, mais en entrant dans un nid de poules...
Moi, là, je suis avec les gars de la remorqueuse. Dis bonjour. Allô!
Il part de l'épaule et la tombée de l'épaule.
Alors, deux nids de poule sur la rue Notre-Dame. On s'en vient avec des solutions, mais entre-temps, on se fait remorquer. Puis je sais que les rues, ça n'a pas de bon sens. Deux
pneus. Ouais.
Ouais, exactement. Bon, donc, deux flats, puis elle dit « Hey, on s'en vient avec des solutions, je le sais que ça n'a pas de sens. »
Ce qui est un peu bizarre avec cette vidéo-là, là, puis on va, après on va prendre un peu de hauteur, là, c'est que quelques heures avant, elle avait dit, et ça j'ai salué ça, là, parce que j'aime quand les politiciens sont transparents, quand ils nous disent même des choses, ils nous disent des mauvaises nouvelles, qu'ils nous disent « Regardez, c'est comme ça que ça va se passer. » Elle avait dit « Ça ne s'améliorera pas au courant de l'hiver. » Je vous le dis tout de suite, ça va s'empirer, ça va être la pire saison depuis des années, si ce n'est pas la pire saison à vie dans la ville de Montréal.
Laisse-moi avec la vérité, mais tue-moi pas avec le mensonge.
Ben exactement, mais elle a dit ça, et là, par la suite, il lui arrive ce malheur-là, et elle dit, on s'en vient avec des solutions, puis on se demande si la vidéo était pas vraie, c'était pas plus un truc très impulsif, là, tu sais, parce qu'on s'en vient avec des solutions, ça contredisait un peu le diagnostic qu'elle avait prononcé un peu plus tôt dans la journée. Où, oui, elle disait ça va un jour s'améliorer, mais ça ne sera pas cet hiver. Il faut savoir qu'à Montréal, cette année, je pense qu'il y a eu 5 fois plus de plaintes là, au mois de janvier 2026 qu'en janvier 2025. 5 fois plus, c'est énorme. Là.
Mais au moins, Rémi, vous avez l'avantage à Montréal, et je suis certain que Pascal va être d'accord avec moi, d'avoir une nouvelle mairesse qui dit « Hey, je le sais que c'est l'enfer, mais ça va être l'enfer, puis on va essayer de trouver des solutions pour l'an prochain. » Nous, on a un maire à Québec qui reçoit 652 plaintes sur le déneigement, puis il sort devant les médias pour dire « Hey, vous savez quoi? On est la meilleure ville pour le déneigement. » Ça, ouais. Ça, c'est fatigant.
Ouais, ben Bruno Marchand, c'est son deuxième mandat, donc lui, il est pogné dans des mauvaises habitudes de politicien qui a désormais de l'expérience. Soraya avait aussi de l'expérience en politique fédérale, mais je pense qu'elle a voulu vraiment faire de la politique autrement. Par contre, ces vidéos-là, c'est ça dont je veux parler, parce que Bruno Marchand en a fait une la semaine passée où il nous montrait une de ses journées. Là, il commence ça sur son vélo stationnaire, ensuite ouais. Il se fait un
sujet. Hey, Rémi, si tu permets, on va écouter justement le début de cette vidéo de Bruno Marchand, notre maire de Québec.
Je suis le vélo, intervalle en côte, donc intervalle court, on se donne à fond. Le matin, ça ne me tentait pas. Il y a plusieurs matins qu'au départ, c'est top, mais après, je suis content. T'es regard, c'est l'heure de déjeuner. Un peu salé dans le temps. Tofu, yogourt, fruits,
la petite de l'eau. Musique, Pascal. On fait notre smoothie.
Wow! Oh! Ça, faut que tu branches.
Ah, j'avais oublié de brancher mon mélangeur.
Il va avoir besoin de fenêtre. On va à l'hôtel de ville, consultation avec des
mon chauffeur
dans quelques minutes. Prends les escaliers?
Ben oui, je t'en forme, toujours les escaliers. Donc, l'autopromotion de Bruno Marchand, Pascal, ouais. Versus Soraya Ferrada-Martinez, qui, elle, conduit sa voiture, ouais. Fait 2 flats, puis dit à ses citoyens, m'a réglé ça.
Puis c'est drôle parce que je me dis, tout le monde a du temps là, dans sa vie. Fait que si Bruno Marchand avait un moment à ce moment-là pour faire une vidéo de à quoi ressemble une vie médiatique d'un maire de Québec, c'est une chose. Mais c'est drôle, Rémi, que t'en parles aujourd'hui parce que la journée où j'ai vu la vidéo du maire Marchand, j'écrivais dans notre groupe de travail, un groupe secret, là, qui était juste pour les animateurs de boulevard. J'ai une petite question. Je suis vraiment intéressée à vous lire. Vous aimez ou pas quand les politiciens font ça?
Ben, c'est vraiment très... La question, elle doit se poser, puis il y a des bons arguments des deux côtés, parce que moi, je veux pas être le grognon de service.
C'est
là.
Ça!
Tu sais, que quelqu'un nous montre sa journée, en plus, on est voyeurs et curieux, je les ai regardés les deux vidéos. Soraya avait fait une vidéo la semaine dernière, Martinez Ferrada, mairesse de Montréal, elle a fait une vidéo semblable aussi, elle montrait sa journée, on les regarde. Puis moi, je peux pas dire, ah, oh, si je suis contre ces vidéos-là, et les regarder. Ça, c'est une posture... Non, mais c'est une posture que j'essaie d'adopter dans ma vie, elle est pas facile. Mais
j'aime ta conséquence.
Bon. Puis en plus, tu sais, la vidéo de Bruno Marchand, il commence, il est sur son vélo, il dit « ça me tentait pas aujourd'hui ». Ça, tout le monde traverse ça dans une journée, là. « Ça me tentait pas de me lever ce matin, ça me tentait pas d'aller au gym ce matin, ça me tentait pas d'y aller, puis je suis allé ». Les gens se reconnaissent. Mais prenons un peu de hauteur. Pourquoi ils font ça? Est-ce qu'ils font vraiment ça pour nous faire entrer dans leur univers, pour devenir plus sympathiques? Ou ne font-ils pas ça pour gagner du temps? Je m'explique. Un maire, là, c'est destiné à nous déplaire. Il n'y a pas à peu près aucun maire dont vous pouvez me parler aujourd'hui et me dire « Mon Dieu, qui était bon, ce maire-là. Mon Dieu, qu'on s'ennuie de lui. » Ah, vous pouvez me donner 2-3 exemples, là. Mais à l'échelle de l'histoire des villes, des municipalités...
Rémi, je t'arrête, Pascal CV, s'ennuie de poser des questions au maire Labombe.
Non. Bon. Ben, pas dans mon quotidien sur le terrain, là. J'en aurais plein à lui poser maintenant, mais...
Régis Labeaume, il est devenu plus sympathique après sa carrière. C'est-à-dire quand il s'est mis à écrire dans la presse, quand il s'est mis à aller participer à des émissions.
La fin était ardue, la fin était difficile, oui.
Mais c'est toujours difficile pour un maire. C'est là, moi, je pense qu'il faut qu'on arrête de se concentrer sur les personnalités de chacun. Je pense que c'est un travail presque impossible. Mm-hmm. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est bien rémunéré, hein, soit dit en passant. Quand on fait la liste des élus politiques qui sont les mieux payés, les maires arrivent souvent en haut parce que c'est une job difficile. Personne ou presque veut la faire. On a eu de la difficulté à ce qu'il y ait une campagne à Montréal la dernière fois, là, parce que ça ne se précipitait pas aux courses. Donc, puisque ça finit toujours mal, hein, et Bruno Marchand pensait... en allant chercher le pouvoir une deuxième fois, que lui échapperait à ça. Checkez bien ça la prochaine fois qu'il va se présenter, si ça va bien finir. Puis si ça marche bien, on verra au troisième mandat. Ça finit tout le temps mal. Bien, on gagne du temps. Donc, on est destiné à déplaire. On est destiné à aller moins vite que ce qu'on a promis de faire. On est destiné à ne pas réaliser chacune de nos promesses. Donc, aussi bien se présenter comme étant quelqu'un de sympathique. Hein? On dit « Ah ben, regarde, il mange bien. Ah ben, il prend les escaliers. Ah ben, il écoute de la musique. Ah ben, il se lève tôt. »
Il est comme
nous. Il est comme nous. Ah ben, il y a un jeune dans la vidéo à côté de lui. Il a l'air d'être jeune, son assistant. Ah ben, il aime la jeunesse. Ah ben, si.
Mais ça fonctionne pas toujours, Rémi, parce qu'il y a beaucoup de commentaires comme « Hey, va donc t'occuper de tes dossiers au lieu de nous faire des vidéos du type. » Tu as tout le temps le genre de malaise aussi éprouvé par certains. Tu as la frustration éprouvée par d'autres qui se disent « Ben, pourquoi il a le temps de faire ça, lui? » Puis tu as aussi ceux qui se disent « Ah, oh, c'est donc bien le fun, il est donc bien proche du monde. »
Oui, ben c'est sûr qu'il n'y a pas d'unanimité. Là. Les gens sont pas tous derrière lui. Par contre, si on continue à les faire, ces vidéos-là, ça doit être parce qu'ils ont fait le calcul que c'est plus payant que de le faire que de ne pas les faire. T'sais, à moins que ces gens-là soient tellement orgueilleux qu'ils s'enfoncent à travers un processus qui est le mauvais. Bon, ça se pourrait ça aussi en politique, des gens orgueilleux. Je pense que j'en ai croisé une au courant de ma jeune carrière. Mais je pense
on a interviewé Bernard Drainville hier midi.
Ben regardez, la vidéo... Ah, oh, moi, Bernard Drainville, vous êtes chien.
Okay, donc, la vidéo... non, je l'adore, c'est rendu capitale nationale.
Ah, mais il a toujours été... Bon. Non, par contre, je dois dire qu'il a toujours été. Là, moi, je peux pas dire que c'est un nouveau mandat qui se donne pour Bernard Drainville. Ça, là-dessus...
Oui, c'est vrai, c'est un bon point.
T'sais, il en a pleuré devant la caméra. Après, on pourrait dire, c'est pour certains, c'est du théâtre et tout ça, mais quand le projet de Troisième Lien, sur lequel il s'est fait élire puis qu'il a forcé corps et âme pendant sa campagne, était dans ses priorités puis que ça a été abandonné... Il était encore de l'avant là, dans les médias.
Il se bat, contre votre candidate du 4-5-0, Christine Fréchette. C'est la capitale nationale contre la région de Montréal, cette course-là, à la chefferie de la CAQ.
C'est Canadien nordique. C'est aussi simple que ça.
Fait que Bernard me fait revivre des sentiments que je ne pensais jamais revivre, c'est-à-dire une haine viscérale envers Montréal.
Mais Soraya, là, en passant la vidéo, revenons à Soraya, la vidéo où elle pogne un flat, deux flats, ça aussi, ça respecte l'idée qu'on gagne du temps parce que qu'est-ce qu'elle lance comme message? J'ai regardé, là, ça m'est arrivé à moi aussi. OK? Donc, quand je vous m'écoutez parler de tout ça, puis que je suis dans la théorie parce que je n'ai pas vécu ça, puis vous vous dites « Ah, ça ne se réglera pas ce problème-là parce qu'elle est dans la théorie, elle n'en pogne pas de flat », bien là, elle en pogne un. Elle se prend en vidéo et là, il y a des gens qui écoutent ça puis qui se disent elle va le régler ce problème-là. Elle va le régler, elle a pogné un flat. Elle ne se promène pas en hélicoptère, elle se promène en char. En passant, elle a un chauffeur. Hein? Donc, si le maire de Québec a un chauffeur, là, elle aussi elle a un chauffeur, mais elle a pogné un flat, donc... Ah, elle gagne du temps. Dans notre esprit, elle travaille là-dessus en ce moment. Mais il ne faut pas oublier qu'elle nous a dit qu'elle ne réglerait pas ce problème-là cet hiver. C'est ça qui est essentiel.
Toi, tu veux revenir à ça. En même temps, elle nous montre que ça la fait autant suer que nous. Oui. Dans les vidéos qui sont faites par les politiciens, pendant qu'on est là-dedans, je peux te poser une question, Rémi?
Ben oui.
T'en penses quoi, toi? Souvent, tu vas parler un peu de sociologie et tout ça, mais la question était sincère. La prochaine fois, je vais te l'envoyer, M. Villemur. Mais je me demandais si on aimait ça, voir ça ou pas, parce que puis dans les réponses que j'avais avec mes collègues, il y en a plusieurs qui disaient « ben, neutre, ah, oh, ça le rend sympathique », d'autres « vraiment, j'ai un malaise ». Puis on s'est rendu compte que si c'est Catherine Fournier, par exemple, une jeune, un peu plus dans la modernité, qui nous montre ça, son quotidien, c'est plus accepté, c'est moins critiqué, on vit moins de malaise que, par exemple, Bruno Marchand qui, du jour au lendemain, est devant son feu de foyer puis nous montre ce qu'il fait à Noël ou qui est sur son vélo, qui nous montre une journée type dans sa vie en tant que mère. Il y a quelque chose qu'on comprenait pas dans la dissonance entre certains candidats où ça fonctionne puis d'autres où ça fonctionne pas. Sam Hamad, tout le monde était dans le grand malaise. Sonia Lebel, femme extraordinaire au niveau de la politique, Commission Charbonneau, mais d'un des plus grands malaises, par exemple, sur Instagram quand elle chantait, elle dansait. Pourquoi il y a une dissonance comme ça?
Hey, c'est une bonne question. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que je n'y ai pas répondu clairement. J'essayais d'y échapper. Non, mais tu sais, je pense qu'il y a une recette. Il y a quelque chose que les gens sont capables de bien produire. C'est pas tout le monde qui est capable de faire une bonne lasagne, même si on a l'impression que c'est un repas quand même simple à faire. Catherine Fournier, c'est vrai qu'elle semble frapper des coups de circuit là-dessus. Moi, je regarde une vidéo de Catherine Fournier, puis je ressens le même malaise que je ressens avec une Dominique Anglade qui me danse d'en face. Pour moi, ces vidéos-là sont des mises en scène. Et une mise en scène, c'est faux. Donc, quand c'est faux, puis qu'un politicien s'enfonce là-dedans, ben moi, j'ai un malaise, puis je préférerais qu'il soit derrière son bureau. Mais moi, c'est très personnel. Moi, je préfère un politicien qui n'en fait pas de vidéos. Mais après, tu sais, si tu n'as pas de réalisation, puis tu as des vidéos, ben au moins, tu as quelque chose à te mettre sous la dent. Si tu n'as pas de réalisation et pas de vidéos, oh là là, là, ça commence à être louche. Si tu as de réalisation et tu n'as pas de vidéos, eh bien là, c'est le scénario parfait pour Rémi Villemain.
Ah, c'est donc bien dit. Je termine avec une hypothèse en conclusion. Je pense que c'est plus accepté pour répondre à la question de Pascal chez Catherine Fournier, par exemple, que chez Bruno Marchand. C'est que Catherine Fournier, elle représente à l'heure actuelle pour le Québec en entier les jeunes politiciennes un modèle de réussite. Et surtout qu'on sait par l'épreuve qu'elle a dû passer malheureusement lors de sa jeune carrière au PQ, c'est-à-dire celle d'une agression sexuelle. Je crois que c'est plus acceptant en raison du fait qu'elle est, puis là je le représente, mais pour moi elle est un extraordinaire modèle pour les jeunes femmes qui veulent s'assumer et faire une carrière en politique.
Ah, puis en passant, avant qu'on se laisse, là, la vidéo la plus malaisante de l'histoire des vidéos faites par un politicien, c'est Luc Rabouin, qui était candidat à la chefferie, qui était candidat pour devenir le maire de Montréal, chef de projet Montréal. Il marchait à la Place des Arts, donc il était filmé de dos, et à un moment donné, il y a une main qui le pousse, et là, il se retourne et dit « Pousse-moi encore une fois, et tu vas voir de quel bois je me chauffe. » Et la personne le repousse, et là, il se retourne et dit « Je suis Luc Rabouin, et on ne me pousse pas comme ça. »
Arrête, arrête, m'envoie ça.
Tu regardes ça et tu te dis, non, ouais. Qui a pensé à scénariser ça? Qui a pensé à filmer ça? Et surtout, qui a pesé sur publier?
Oui.
Mais en même temps, j'en veux autant que François Legault qui s'en va parler à des enfants. Là. C'est... Honnêtement, il y a quand c'est rendu dans l'extrême malaise, là, je suis rendu dans la dégustation politique de vidéos virales. Il y a quelque chose qui est mal fait avec l'humain.
Mais hein. Attendez une minute, les amis, là, vous avez oublié quelque chose? Ah, la chanson de Leadership Québec.
C'est de l'intelligence artificielle.
Ça a aidé sa mamade au bout dans le pourcentage de vote. Rémi Villemur sur ses belles paroles de Leadership Québec. On se parle jeudi. On se garde en banque le sujet prévention du suicide. C'est la semaine nationale cette semaine, donc on en parlera jeudi.
Bye-bye à vous deux.
Salut. Salut Rémi, merci. Rémi Villemur, animateur au 99.5 Montréal. Écoutez-le si vous êtes dans le coin de Montréal. Il est vraiment excellent. Il fait également des podcasts. Donc, vous pouvez le suivre à chaque semaine. Il y a un nouveau podcast. C'est vraiment excellent ce qu'il fait. Courte pause à l'émission On en jase. Par la suite, Pascal, t'as quoi, toi? T'as questionné les gens sur Instagram. Là. Qu'est-ce que t'as fait là?
Oui, puis il reste encore quelques minutes pour aller répondre parce qu'hier, on avait Bernard Drainville qui demandait aux gens à l'écoute, aux gens qui suivent la politique. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas intéressé à un troisième lien? Puis si vous l'êtes, ben, vous êtes où? Troisième lien, si vous êtes à l'extérieur de la région de Québec, il vous fait quoi? Est-ce qu'il vous stimule? Vous êtes neutre? Vous êtes fâché? Vous en voulez? Parce qu'on entendait de tous les horizons quant au projet de troisième lien. Par contre, quand vient le temps de construire un pont à Montréal, c'est comme si c'était essentiel, on ne se pose aucune question.
Ben oui.
Sur mon Facebook, Pascal CV, mon Instagram, Pascal CV ou celui de Boulevard, ben, vous avez encore la petite case de questions. On attend vos réponses. Ça vous fait quoi, le troisième lien?
On vous revient avec ceci immédiatement après cette courte pause à l'émission En jase sur Boulevard 101. Émission On en jase sur les ondes de Boulevard 101. Il est présentement 13h34. À la météo, je vous le disais, c'est une belle journée aujourd'hui. Moins 10 degrés généralement ensoleillés. Moins 6 faibles neiges intermittentes pour demain. Moins 10 alternances de soleil et nuages jeudi. Et vendredi, moins 9 neiges intermittentes. Donc, une belle semaine d'hiver. Après notre émission, évidemment, c'est le retour de Gravel qui suit avec Denis Véraud et Audrey. Vraiment des beaux invités dans le retour de Gravel aujourd'hui. SOS Nancy Doyon, qui sera présente aux alentours de 15h30. Mathias Turcotte, qui va revenir des conférences de presse pré-conseil 16h30. Et 17h, le planificateur financier. Alex Leblond sera présent dans l'émission du Retour de Gravel. Par la suite, Marceau le soir, ne manquez pas ça, avec nul autre qu'Olivier Primo. Pascal, ça va être très intéressant. On l'avait vu comme peut-être futur chef de la CAQ. Il a dit « Va falloir j'apprenne à faire de la politique avant. » Donc, ça va être une conversation tellement intéressante entre Marceau et lui.
Je travaille fort au booking, puis Olivier Primo, on s'entend que c'est un peu la saveur, pas du mois, de l'année.
Oh, vraiment?
En termes d'entrepreneuriat, en termes de politique. Puis effectivement, il y a des gens qui le voyaient reprendre les rênes d'un parti. Ça semble pas être la CAQ, son parti, du moins, pour reprendre les rênes de quelque chose. Il se cache pas que la politique l'intéresse. Il se cache pas que c'est dans son radar. Mais clairement, c'était pas à court terme. On va discuter de ça ce soir dans Marceau le soir.
Ça va être vraiment intéressant. Yannick qui est très bon pour faire de longues entrevues, justement, avec des invités aussi intéressants qu'Olivier Primo. Et tout ça va se retrouver sur le BLVD.fm, évidemment, compté de demain. Pascal, avant la pause, on en parlait. On a énormément parlé du troisième lien hier avec Bernard Drainville. On a demandé à M. Drainville, comment ça le monde de Montréal veut choisir ce qui arrive à Québec? On ne choisit pas ce qui arrive à Montréal. On est entré dans cette guerre Québec-Montréal et là, ça t'a inspiré sur ton Instagram.
Une petite question, parce que Bernard Drainville a demandé hier, « Hey, si vous voulez un troisième lien, il faut bien que les gens à l'extérieur du Québec soient un peu d'accord, mais qu'il n'y ait pas à dire si ça doit se faire ou pas. Pourquoi? Ben parce que nous, on ne se mêle pas des projets de transport, de structures et d'agglomération au niveau de Montréal. Bernard Drainville a dit qu'il veut que le troisième lien soit appuyé ailleurs au Québec pour une question économique. Donc, on en a besoin ici dans la région pour des questions économiques. Et ça, petit clin d'œil, parce que les premiers qui en ont parlé, de l'apport économique, si jamais on perd un de nos ponts pour quelque raison que ce soit, c'était des animateurs de radio avec des gens qui se sont prononcés il y a plusieurs années maintenant. Et bon, pour Bernard Drainville, c'est encore très clair dans sa route politique que c'est un projet pour la CAQ. Écoute, dans le reste du Canada, on n'en parle pas, là. Ailleurs, au Québec, on en parle un peu puis on commence à le remettre dans la soupe parce que ma question était pour les gens d'ailleurs qu'à Québec, vous pensez quoi de ce projet-là? On voit un groupe là, apparent, c'est le groupe des environnementaux. Ceux-là se portent comme étant un porte-étendard, justement, et défendent tout ce qui est environnemental autour du troisième lien. Des groupes comme Équiterre sont connus, sont connus hors de la ville de Québec aussi. Ils ont critiqué le projet. Ils le présentent comme inutile, coûteux, contradictoire. Et il y en a beaucoup qui se réfèrent à l'environnement pour être contre à l'extérieur de la ville de Québec.
Ça va créer de la congestion additionnelle. Ça ne sera pas bon pour la qualité de l'air, etc., etc.
Puis on nous demande de repenser à tout ce qui est transport collectif à Québec d'une autre manière.
Le fameux, là, on met en confrontation tramway versus troisième lien. On peut pas avoir les deux. Il faut juste en avoir un, puis c'est le tramway qu'eux veulent.
Puis quand je les ai questionnés, à savoir, parfait, OK, mais vous êtes à Montréal, pour ceux qui m'ont écrit. Vous avez un réseau de transport structurant un petit peu plus prononcé que nous, un peu mieux établi avec le métro, entre autres. Et nous, on n'a pas ça. Là. Êtes-vous conscient qu'on n'a pas ça pour le transport collectif? Ouais, puis après ça, l'argument tenait plus trop. Là. L'argumentaire tombait un petit peu parce qu'il se disait, ben là, Québec avait juste à y penser. Québec devrait travailler là-dessus au lieu d'investir pour un pont comme ça. Du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean, je suis allée par catégorie.
Ben oui, vas-y donc.
Il y en a plein qui ne voulaient pas au départ dépenser pour un projet de troisième lien, qui le voyaient niette et pas intéressant. Puis là, je vous dis, c'est pas quelque chose de scientifique, hein? On s'entend, c'est un sondage Instagram.
Ben oui. Mais c'est toujours intéressant. Sondage Instagram, ouais. C'est du monde comme moi puis toi qui répondent.
Exact. Puis merci beaucoup à mes abonnés de participer à ça. Et c'est tombé dans zéro comme dans Ouellet, on s'en fout, faites ce que vous voulez. Fait que même si nos taxes, nos impôts s'en vont là-dedans,
c'est comme,
là, rendu là, on est écœurés, faites bien vos affaires.
Les aiment, le monde au Saguenay, ils nous disent « gérez vos affaires ».
Mais c'était pas ça au début. Ensuite, il y a des gens qui nous disent « Hey, c'est important, je pense qu'on vous soutienne à Québec pour un projet comme ça, parce que quand on vient, on se rend compte à quel point la situation du trafic a changé. Donc oui, peut-être que ça peut être un projet intéressant. » Quelqu'un de l'extérieur qui disait « Moi, je tire la plug ». Je suis écœurée de vous entendre parler là-dessus. Vous ferez bien ce que... Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont puis je te dirais que pour une bonne majorité, qui se sont dit même plus intéressés à un projet comme ça. Pour d'autres, il y avait la catégorie juste contre la CAQ. On n'a plus confiance en la CAQ. Mm-hmm. Donc, pourquoi vous leur faites confiance pour un projet comme tel? Ils veulent juste se faire élire. Scrapez pas notre province en réalisant la CAQ. Ça sortait dans mes réponses pour les gens hors Québec.
J'adore cette réponse-là.
C'était
parce
pas
que...
le troisième lien. C'était scrapez pas notre province en votant pour la CAQ. On peut pas leur faire confiance.
Eux, c'est juste plus CAQ. Fait que laissez tomber votre troisième lien. Faites-nous pas ça, s'il vous plaît. Je trouve ça bien drôle.
J'ai la catégorie entrepreneur, OK? Les entrepreneurs qui m'ont écrit, qui ont des business, entre autres quelqu'un qui vient de la région de Drummondville. Et lui, en plus, ben, il est propriétaire d'une flotte de camions. Lui, il le veut, le troisième lien. Il dit que ça fait une grosse différence puis que ça le prendrait à l'Est. Alors, il fait vraiment partie de tout ça. D'autres entrepreneurs qui disent à quel point on a négligé l'économie et en matière de transport, on le voit tous les jours dans notre business parce qu'on doit livrer rapidement les choses avec les géants internationaux qui ont pris de la place. Puis je pense qu'on parle d'Amazon et tout ça ici en termes de livraison. On doit être compétitif et c'est pas toujours facile avec nos flottes sur les réseaux routiers. Donc oui, il faut penser à une meilleure flexibilité et surtout une modernité sur nos réseaux routiers et ce, partout au Québec.
Non, en effet, parce que contrairement justement à des grandes organisations qui sont capables d'avoir des points de service un peu partout dans les grandes villes, eux souvent ont un centre de distribution et viennent redistribuer à l'échelle de la province. Donc, c'est clair que ça crée une différence. Quelques réactions, le présentement par texto et continue 418-971-101. Il y a une bonne question. Quelle est l'opinion de Drainville sur le tramway? On sait celle sur son troisième lien. Il est pour le tramway, Bernard Drainville, mais il a affirmé dans plusieurs entrevues hier que va falloir que le fédéral embarque. Et une autre réaction ici, bien voyons là, on a payé le pont Champlain puis le stade. Qui nous laisse tranquille puis qui nous laisse faire le troisième lien. Continue à interagir 418-971-102.
Je t'ai parlé des gens du Saguenay parce que certains se sont prononcés. Je t'ai parlé des environnementaux, hein, des groupes qui se sont prononcés. Je t'ai parlé des gens d'affaires. Je m'en vais dans une autre catégorie, c'est celle des gens de Montréal.
Ah, certains... Qu'est-ce qu'ils ont à dire, nos gens de la métropole?
Ça va dans tous les sens. C'est ce qui m'a fait rire, puis en même temps, m'a amené à me dire, OK, c'est la catégorie la plus hétéroclite. Là. Pour plusieurs, c'était « Faites pas comme nous, vous n'êtes pas obligés de nous copier. » Quelqu'un qui disait « Pourquoi nous est-ce qu'on... » Puis là, ça va dans tous les sens.
Ben oui.
Pourquoi nous est-ce qu'on a le droit d'avoir divers liens pour relier nos rives, un peu comme vous, Rive-Sud, Rive-Nord et l'île de Montréal, et que vous, ça n'a pas été développé par le passé? Est-ce que Montréal est plus important pour le Québec que Québec même? Point d'interrogation.
Bien, clairement, chez plusieurs politiciens, oui. Là. Si on regarde ce qui s'est fait dans le passé, ce que la CAQ a fait dans ses 8 ans.
Quelqu'un d'autre qui dit « Je suis de la rive sud de Montréal. » Oui, plus à l'est par contre. Pas un à côté de l'autre. À quoi ça sert?
Mm-hmm, très bon point.
Quelqu'un d'autre qui dit « Je suis de Montréal et je me demande quels sont les réels débats là-dedans. On a l'impression d'être perdu et je pense que c'est pour ça qu'on décroche et on se demande pourquoi nos taxes iraient là-dedans, nos taxes et impôts. »
Bien, en effet, c'est un bon point, là, que ça... Depuis 2015 qu'on en parle. On est en 2026 et on ne sait pas encore quoi faire.
On nous dit également, pourquoi vous prenez pour le centre du monde à Québec? Ça aussi, ça va être une problématique pour les prochaines années. On ne vous néglige pas. Par contre, vos enjeux électoraux font souvent la manchette et prédominent sur le reste du Québec. Aux dernières élections, nous l'avons encore vu et c'est arrangé actuellement pour être la même chose aux prochaines élections.
T'en penses quoi, toi, de ça? Je suis mis d'accord, mis en désaccord. Je m'explique. C'est vrai que le troisième lien a pris énormément de place. Il y avait pratiquement une thématique troisième lien dans le débat des chefs, ce que je trouvais ça complètement insensé pour un projet régional. Mais en même temps, on parle de Montréal pas à peu près dans une campagne électorale aussi, compte tenu que c'est notre métropole et on veut la développer. T'en penses quoi, toi?
Mais écoute, après avoir reçu ça, je me suis demandé... Qu'est-ce qui allait prédominer dans l'opinion des gens? Puis après ça, je me suis juste ramenée à moi. Okay? Mon opinion personnelle, c'est je ne crois pas. Je pense juste parce qu'on a beaucoup de problèmes ici à Québec qui n'ont pas été résolus. On n'a pas travaillé en amont. Et on grossit énormément aussi. On s'est placé comme étant un vecteur économique important dans les dernières années. On a eu énormément de gens issus de l'immigration. Ça s'est même... ventilé dans nos régions. Mm-hmm. Et on est souvent le pouls de ces régions-là. Québec, bien avant Montréal. Là,
ouais.
Okay? Ça, on le voit. Fait que c'est sûr qu'on est rendu dans les enjeux principaux parce qu'on a des lacunes, puis on a des manques. Là, par contre, où je me suis questionnée, c'est pourquoi est-ce que Montréal est plus autodidacte ou encore travaille plus et avance plus en solo que nous, on est capable de le faire? Y a-tu des reines qu'on est capable d'aller chercher?
Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de consensus? T'sais, je vais juste prendre les projets de transport en commun, par exemple, à Montréal. Quand tu disais, je développe un SRB, je développe un REM, je développe une nouvelle ligne de métro, il n'y a personne qui y est con.
Personne n'est en train de jaser de ça, tu as raison. Du moins, ça ne vient pas à nos oreilles. C'est parce qu'on est positionné à Québec. on est-tu trop branlés dans le manche aussi? Ben, que nos problèmes se ramassent à grandeur de la province parce qu'on avance pas?
Aussi. Puis là, ça fait en sorte qu'on est toujours le pied sur le frein parce qu'on a peur de déplaire. Puis là, je parle des politiciens. On a peur de déplaire une trop grande partie de l'électorat. Donc, on garde le pied sur le frein Québec parce que sinon, on va trop se faire critiquer. Peut-être que c'est une partie de réponse. Yes.
Peut-être que les gens pourraient répondre à ça. 88-903-1021. Ouais. Est-ce qu'on prend trop de place dans les enjeux politiques au provincial, Québec, la ville de Québec?
Ouais, bon point. 418-971-1021. C'est un excellent point que t'amènes, Pascal CV. Est-ce que tu avais d'autres régions?
Bien, il n'y a pas de régions qui m'ont été affichées. C'est plus des gens qui ont commencé à parler pour eux et leur envie personnelle. Mais entre autres, des collaborateurs au niveau du politique qui ont mentionné que si le scénario est financièrement viable et que le tracé est logique, qu'est-ce qui freine?
En effet. Hey, j'ai aimé ça, ce petit sondage-là, parce que
on va en faire plus souvent.
Mais en refaisant, j'aime ça, ça nous amène...
Puis merci de me suivre et de me permettre d'avoir
vraiment?
Ces réponses-là.
J'ai adoré ce micro-là. Ça nous permet d'interagir avec les auditeurs. J'ai trouvé ça le fun, ça nous permet de donner notre opinion. Puis j'aime beaucoup recevoir l'opinion des gens comme ça. Ça m'amène à réfléchir. Hey, pourquoi à Québec, on entend tant parler des enjeux, contrairement à Montréal? C'est parce qu'à Montréal, tout le monde pense pareil. Puis nous autres, on est trop critiques.
C'est parce que les gens se sentent plus loin du pouvoir au niveau de Montréal, mais pas à Québec.
Ouais, compte tenu que l'Assemblée nationale est ici. Peut-être. Après la pause, on fait un petit tour d'actualité. Puis je vais te parler de la fête du Canadien de Montréal hier. Le Canadien a perdu, Pascal, en prolongation. 4-3 contre le Wild du Minnesota.
On en jase. Jusqu'à 14h, on en jase.
13h50. Dans 10 minutes, c'est le retour de Gravel avec Denis, Audrey et Véro. Manquez pas à 16h30, Mathias Turcotte qui sera de retour. Des conférences de presse pré-conseil avec le maire Marchand et le chef de l'opposition officielle, Stéphane Lachance. Stéphane Lachance qui va faire également sa conférence de presse demain avec son expert pour nous parler des feux de foyer, des feux de poêle à bois. Donc, bien hâte d'entendre ceci. Mathias va venir renseigner tout le monde dans le retour. Et dans Marceau le matin, jeudi matin, on aura justement Stéphane Lachance. Pascal, hier, défaite du Canadien de Montréal qui a perdu 4-3 en prolongation face au Wild du Minnesota. C'est un but en prolongation du Wild en avantage numérique. Ça a soulevé l'ire de l'entraîneur du Canadien, Martin Saint-Louis.
Mon Dieu, ça change ton français aussi. Ça a soulevé l'ire, Jean-François.
Il était en furie. Kirill Kaprizov, l'excellent joueur du Wild. Le Russe a marqué son 32e but de la saison. 50e passe pour Quinn Hughes, le défenseur du Wild qui connaît une très bonne saison. Il a été acquis par le Wild. Le Canadien ne joue pas ce soir, va jouer demain contre les Jets de Winnipeg avant la pause olympique. Mais ce soir, il y a plusieurs matchs à surveiller avec des opposants du Canadien dans la course au classement dans la section Atlantique. Les Sénateurs sont en Caroline pour affronter les Hurricanes, c'est à 19h. Les Sabres affrontent le Lightning à 19h30. Et 20h30, un duel Maple Leafs de Toronto, Oilers d'Edmonton. Parlant de la pause olympique, Pascal, Anthony Cirelli, un joueur de centre qui avait été recruté par Équipe Canada, c'était un peu un choix controversé parce qu'on disait « il me semble qu'il compte pas assez de buts, il me semble qu'il n'est pas assez physique ». Mais l'entraîneur John Cooper, qui est son entraîneur avec le Lightning, l'aime beaucoup en désavantage numérique, bien, il s'est blessé dans le match extérieur de dimanche soir. Alors, il sera remplacé par nul autre que Sam Bennett, double champion de la Coupe Stanley avec les Panthers de la Floride, gagnant du trophée Conn Smythe pour le joueur le plus utile aux séries l'an passé. Et il avait marqué le but égalisateur en finale de la Coupe des Quatre Nations. Alors, il y a plusieurs gens qui vont dire « Ça fait bien notre affaire que Cirelli soit blessé et que Bennett vienne. »
42 points de compté, 19 buts, 55 matchs avec les Panthers cette saison. Hey, je suis allé voir mes statistiques juste pour toi, mon Jeff.
Tu connais donc bien ton hockey, Pascal.
Mais je comprenais rien de cette nouvelle-là, puis j'avais envie de m'y mettre.
Sam Bennett sera avec Équipe Canada. On a
fait ses valises pour l'Italie, il y a pire quand même.
Exactement. On attend des nouvelles pour Brandon Point, un autre bon joueur du Lightning de Tampa Bay qui est blessé, ce qu'il va participer à la compétition. On devrait en savoir plus d'ici 48 heures. Rapidement, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité cet après-midi?
Bien, c'est sûr que moi, j'ai hâte de voir comment certains dossiers vont évoluer ou du moins les commentaires qu'on va avoir. Mais sur les accommodements religieux à la SAAQ, il y a un homme qui peut refuser d'être servi par une femme. Ça, c'est sorti, on en a jasé un peu. On n'a pas beaucoup d'informations parce que la SAAQ n'a pas répondu aux questions du Journal de Québec. Ils ont publié l'article comme quoi, parce qu'on est là-dedans, là, tu le sais, on est en commission parlementaire en ce moment, et il y a des gens qui se font valoir, qui vont se faire entendre. C'est le cas de l'avocate Christiane Pelcha, qui elle est allée de l'avant avec le fait que des hommes peuvent se faire refuser d'être servis par des femmes quand ils se présentent à la SAAQ. Ça veut dire que ben, tu peux réclamer un employé masculin. Toi, t'arrives, ça fait pas ton affaire, pour ta religion d'être servi par une femme, ben c'est correct. On a dit que c'était correct dans le rapport des principes de la loi sur la laïcité de l'État et sur les influences religieuses. Alors, ben, tu peux demander ça, puis tu peux être servi par un homme par la suite. Mais on trouve, du moins pour Maître Pelcha, que là, c'est d'accommoder les clients, mais c'est contre les droits quand même des gens. Il dit, là, faudrait pas donner satisfaction à un homme qui ne veut pas être servi par une femme. On est quand même au Québec. La Commission des droits et libertés de la personne, ça date d'une dizaine d'années. On peut pas imaginer, madame, que quelqu'un arrive en disant hey, « moi, je veux pas être servi par une personne noire ». Vous diriez quoi à ça?
Ben, exactement.
On va lui donner quoi? Un accommodement raisonnable? On va lui donner une dame blanche et pour pas être servi par une dame noire, par exemple? C'est assez grave, là, comme atteinte au droit.
Ah, moi, je voudrais être servi par une femme avec les cheveux bruns, 5 et 8, 160 livres. Là, à un moment donné, c'est assez. Là.
Oui, oui, puis je fais de la radio.
Ben, c'est ça.
tu décris quelqu'un qui... Mais... Tu sais, on fait référence à ça où ça peut prendre beaucoup de place hein, dans nos vies, le tout, puis ça peut perturber aussi des systèmes. Tu sais, s'il faut que tu trouves quelqu'un d'autre à la SAQ pour servir quelqu'un qui veut, je sais pas moi, bien faire selon sa religion, là, ça devient un petit peu complexe. Puis et pour elle, c'est pas un accommodement de droit, c'est bien au contraire hein, quelque chose de déraisonnable.
Ah, je comprends tellement. Pascal, c'est déjà l'heure de finir cette belle émission-là.
Bien, on se dit à demain.
À demain, c'est le retour de Gravel qui suit à l'instant avec Denis, Véro et Audrey. Je termine avec la blague du jour, Christian, qui nous dit « J'exige d'être servi par Karine Vanasse ».
Ben, bonne chance pour avoir un rendez-vous à la SAQ.
Merci, guys, d'être avec nous. À demain, l'émission dans Jazz midi.